Brasseurs illimités et de la bière Simple Malte. Mugodio, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique depuis 1998. Mugodio.com. EB Games, le plus grand détaillant de jeux au Canada. Et par CIPC, votre référence pour votre solution informatique.
Les meilleurs! Comment ça va, vous autres? Ah! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Denis Talbot est avec vous ce soir. Une ribambelle de participants à cette émission. Ça va me coûter cher. Le premier, mesdames, messieurs, c'est lui. C'est Larry LaSalle.
Yeah.
Laurent, avec qui je suis allé faire un tour du côté de San Francisco.
Effectivement, Gilles.
Nous allons revivre ces moments historiques, d'ailleurs.
Ça va être malade.
Malade.
J'ai juste ça.
Hey, je sais.
Tu as un casque de PlayStation VR avec toi?
J'ai tout ça.
Ouais?
Non.
Ah!
Oh. Mais ça, ça aurait été le fond.
Man,
mesdames, messieurs, regardez cet homme. Il est accoutré. Boy. Regarde ça s'il est cool.
Oh, man!
Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ça vient d'où, ça?
Ça fait 20 minutes qu'il est arrivé.
J'ai tapé à Apple dans AliExpress, puis il y a comme full de shit chinoise. Puis les gens comme moi, c'est-à-dire que, qui ont un peu plus que leur poids santé. Là, quand
OK, je pense à un problème mental.
Quand ils sont sur des sites de rencontres. Des petites poignées, là, c'est ça qu'on dit. Du linge de coréen de 105 livres, ça fait pas bien. Mais écoute, je l'ai acheté, il est 4X large, le chandail.
Combien
je me lèverai pas pour te montrer. Il est 9$. Là,
c'est ouais, mais il a l'air de coûter 9$.
Ouais, c'est ça.
Yeah!
La casquette aussi. Fait qu'un gros kit à Apple à 18$. Ça fait changement du price tag des produits Apple de d'habitude. Fait
mais
que,
ouais, mais le look vient avec.
Ouais,
man. Ça n'a pas d'allure.
J'avais une ceinture aussi, mais comme
c'est
vous
beau.
En doutez, elle ne faisait pas.
Quand tu vas dire que c'était des boxeurs aussi, on ne veut pas les voir.
C'est beau. On va aller voir notre ami Max Tremblay.
Yeah.
Salut, Max.
Salut, Denis. Hey, écoute, j'aimerais ça qu'on parle du Canadien. Carey Price est blessé. Qu'est-ce que tu penses de ça? Merci et puis félicitations pour ton beau programme. Hein.
Hey, c'était tout le temps qu'on avait.
Alors, le show est fini ce soir. Passez une belle soirée. Je ne sais pas ce qui se passe. Non. Là, tu fais référence, bien sûr, au fait que je travaille à RDS maintenant.
Oh.
Ah, voilà. C'est subtil.
Non, ce n'est pas trop subtil.
Non,
je trouve que.
Il y a des gens qui ne savent pas.
Ben oui, mais il faut être sur Twitter et voir les 106 000 photos de toi avec quelqu'un d'autre. Ils vont faire un call-out de ta face, genre à côté de plein de monde. Voilà. Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas.
J'entends c'est quoi le bruit?
J'ai aucune idée. C'est quoi ce bruit-là? Moi, là, j'ai aucune idée.
C'est Mike.
Je viens de me faire traiter de douchebag.
Comment ça, tu t'es fait traiter de douchebag?
Ben, il dit tout à l'heure d'un douchebag.
Ben,
Apple Store Laval. Ben oui.
Bon.
Ben, oui.
OK. Un peu d'ordre dans patente. OK. Parlant de gens un peu bizarres, j'ai reçu cette photo tantôt d'un collaborateur à nous qui s'appelle Ian Richards, mesdames, messieurs. Et il n'y avait rien à faire, il faut dire.
Oh.
Il est dans le kryptonite, comme dirait l'autre.
Ben écoute, c'est dur d'attendre. Il reste quoi, 15 jours, même pas?
Ouais,
10 jours? Puis je pense qu'il est mieux là qu'ailleurs. Là,
attends, t'es-tu en train de me dire que dans 10 jours, ils vont le dégeler? Moi, je le laisse là. Je veux pas de spoilers de rien. Non, Yann.
Merci beaucoup à SoSpring, SoSpring 86, qui est devenu membre pour un deuxième mois consécutif. Max, comment ça va chez vous, dans ton coin de pays? As-tu de la neige?
Non, en fait, c'est tout fondu. Il y avait de la neige, mais il n'y en a plus.
Bon.
Mais c'est pas grave. On a du fun pareil. On joue en dedans en attendant jusqu'à ce que le bout de temps vaseux soit passé pour les enfants puis que ça arrête de faire du dégât partout dans la maison. J'en ai de passer à la mop.
Effectivement, non. Ici, on est chanceux. Toi, tu es parti de San Francisco puis il mouillait, c'est ça?
Ah oui, mais ben, c'était une petite pluie fine. C'est comme, je sais pas, à Montréal, du moins ces temps-ci,
ouais.
La pluie est très tropicale.
Oui.
C'est de la grosse pluie sale. Là-bas, c'est une petite pluie de rien.
Plus fatigante, là, ça c'est pour nous humecter un peu, nous fatiguer.
Comme pas assez de vent pour que ça gosse.
Ouais.
Il fait plus chaud là-bas. Là. C'est pas l'été, là.
Ouais.
Mais franchement, sortir dehors avec mon hoodie, c'est totalement possible.
Regardez ça, mesdames, messieurs. Quelques photos maintenant de notre voyage.
Ah, je suis heureux.
Garçon,
j'ai un café.
Content. T'as un café, oui, effectivement. C'est-tu le café qu'on a payé 8$, ça?
Non, il était 4,50.
OK, c'est beau. Attends un peu. On va commencer.
Jean canadien, ça fait 8$.
Allons faire un tour maintenant. Regarde, ça, c'est notre arrivée.
J'ai-tu l'air en forme?
Hey, James Dean.
Mais non, mais ça fait combien d'heures que je n'ai pas eu de cigarette?
Non, mais c'est vrai. C'est une belle photo, pareil.
J'étais tellement heureux après ça.
Ça, c'est la vue. On ne voit pas grand-chose, mais c'est la vue du bar au 39e étage de l'hôtel où on était. Ça a l'air d'un vaisseau spatial. On ne voit pas bien.
C'est dommage parce que notre ami Stéphane Vaillancourt était là, lui, une journée avant. Puis apparemment, il a pris des belles photos. C'était ensoleillé, des belles photos d'en haut.
Il y a Sonia Benizra qui était là. J'ai pris une photo de sa robe. Ah, joli. Okay. Bon, ça, c'est une photo manquée. Ça, c'est d'aller manger un bon petit burger le soir.
Un deli. C'est un bon genre de Nichols comme back in the days.
Ouais,
c'est
très
la
cool.
Viande était délicieuse. Le reste, bon. Burger d'ordinaire. Mais bon.
Ça, c'est une vue que j'avais de ma chambre. Je trouvais ça particulier. Et ça, c'est une photo pauvre foyer. Hein? OK, celle-là n'est pas pire. Mais il me semble que c'est moins beau. Là. Ça, c'est quand tu es allé chercher notre petit café hein, le matin à 8$. Non,
moi, j'ai l'impression que les gens veulent voir les jeux. Là,
ben, c'est mais... ça, je m'en viens. Ah! Là. Regarde ça, là, on arrive. Et là, on était chercher nos passes.
Ben oui.
Hein, regarde ça, c'est marqué Larry Lessard, l'arrivée finalement. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'était un gars de vue de dos. Hein?
Ouais, parce que Denis a voulu changer de place parce qu'il ne voyait rien. Puis pourtant, Denis est assez grand.
Ce gars-là, il était immense. Il devait mesurer 9 pieds et peser 400 livres. Et on ne voyait absolument rien de la scène. Alors voilà.
Juste par curiosité, tout est allé pour brancher vous? Toi, t'es allé pour...
Radio Talbot.
Ah oui?
Ben oui, certain.
Donc c'est ton bras?
Non, on a été invités... On a été invités comme plein d'autres journalistes par c'est Sony ça. Pour couvrir un événement.
Ça, c'est au début, excellent. C'est le matin, il n'y avait presque personne d'arriver. On s'est dit, puis finalement, tout ce monde-là attendait pour la fameuse conférence débute.
Oui, il ouvrait les portes à 9h, mais la conférence débutait à 10.
Exact.
Ouais, 8h. Non, c'était 8h même le samedi. On a attendu quasiment 2 heures d'avance dans la salle. Fait que...
Et il y avait bien sûr des opportunités de prendre des photos comme avec ce camion de Uncharted.
Tout à fait.
Et c'est, l'événement quand même était assez couru. Il y avait beaucoup de monde là. C'était très tôt le matin.
Faut dire que c'était un événement public et journalisme.
Ouais.
Il y avait comme les deux, beaucoup plus de public en fait.
Ouais.
Donc les gens étaient très enthousiastes. Je m'attendais à voir plus de cosplayers. Il n'y en avait pas tant que ça.
Non,
finalement.
Il y en a eu quelques-uns. Ça, c'est la solution pour avoir tous les jeux de. Les codes de tous les jeux gratuitement. Vous faites cette série de codes-là et puis tous les jeux de.
C'est comme un Game Genie sur un monde.
Ça, c'est comme Abbey Road, mais sans les Beatles, avec le mauvais angle. Puis
non,
dans ce
c'était pour montrer le monde. Ça.
Ah!
Tu vois, regarde ça, s'il y avait du monde. C'est incroyable. Il y avait du monde.
Incredible.
On va mettre un peu de musique là-dessus. Ça. On va se rajouter un peu de beat. Hein, ça. Fait qu'il y avait de la sécurité partout, mesdames et messieurs. C'était assez intense. Et ça faisait penser à un mini E3 avec des policiers. Ces deux policiers-là sont restés là toute la journée, finalement.
Relaxé.
Et il n'y avait plus de napkin non plus.
Ça, j'étais bien désolé.
Nulle part à San Francisco, c'est la pénurie de
napkins de 2015.
En Californie, pas de napkins.
Alors, bien sûr, ça a été un tweet fest. On a eu du fun.
On a Maxime Johnson ici.
Ouais. Là, ça commençait. Et là, le monde criait. J'écrivais des commentaires. Certains essayaient de trouver des significations diaboliques à nos commentaires.
Cachés. Mais il y avait évidemment, ils ont présenté, vous avez probablement vu la conférence, mais la fameuse bande-annonce d'Uncharted.
Exact.
L'autre bande-annonce de Final Fantasy VII, où tout le monde a capoté. C'est cool, là, mais il n'y avait rien de... T'sais, on voyait le gameplay pour la première fois, cool, mais je m'attendais à ça.
Exactement.
Puis on a appris effectivement qu'elle allait être épisodique, puis je pense que c'est une bonne chose pour réussir à rentabiliser la patente pendant qu'ils le font, puis aussi tout faire ce que les fans veulent avoir. Parce
exactement.
Que...
Du moins, ça réduit les risques, en tout cas, ça, c'est certain.
Ouais.
Bon, les photos sont pas toutes belles. On les regarde pour la première fois ce soir ensemble.
Ouais,
ça, c'était cool. Rez.
Il va y avoir une refonte de Rez, un jeu qui a été réédité 112 000 fois.
Mais là,
parce qu'il est sorti sur Dreamcast avant, après ça, PS2. Ils l'ont eu sur Xbox 360 en exclusivité, version HD. Puis là, on va l'avoir sur PS4.
Regarde ça. Ça, c'est pour ça que les gars qui font, les filles qui font les conférences sont tellement bonnes. Ils ont tous des gros télésouffleurs comme ça.
Ah oui, non, mais c'est sûr.
Tu veux pas. Surtout que tout est timé dans le temps. Il faut avancer.
Oui, puis ça, c'était la sortie. On sortait tout le monde ensemble. Tout le monde avait la tête sur son iPhone. Ça, c'est quand même le jeu favori à notre ami Ian Richards, hein, quand même.
Dark Souls.
Encore une fois, j'ai pris plusieurs photos pour lui.
On le voit pas très bien, mais il faut comprendre. Les gens pouvaient se faire prendre en photo avec la statue.
Ouais.
Puis quand ils prenaient la photo, il y avait une chute d'eau qui pissait du faux sang.
Regardez ça.
Ah, tes maudits souliers.
Ça, là, ça revient pas des souliers dans une valise de course. Ça arrive avec au marathon.
On n'a pas checké combien ça valait. Ça devait être cher.
Ça devait être cher en tabarouette. Bon, le monde,
ils se lancent même pas tout seul.
Regarde, il y avait une compétition aussi organisée de nos amis là, qui faisaient du. Ah, ça, c'était le gros bonhomme. Il est super beau. Regarde ça, c'est cool. C'est le fun. Bon, OK. Là, des photos de bonhomme, il y en a quelques-unes. Le gars voulait demander une manette. Il fallait pas que tu le regardes.
Ah, man, on s'est fait pogner. On a perdu 10 minutes de notre temps. Là. Hey, 10 minutes qu'on aurait pu investir à jouer un jeu. Non.
C'est ça.
Il voulait nous montrer. montrer la manette, comment ça fonctionne sur Netflix, maintenant sur Hulu, puis sur un paquet d'autres services qu'on n'a pas au Canada anyway.
C'est la première fois que je voyais ça, qu'on pouvait acheter des trucs vraiment à bord, même le salon.
Ouais, ben ça, c'est un salon pour les fans, c'est donc ça. Sony, c'était intelligent de leur part de vendre des trucs. Là, t'es-tu en train de montrer le comptoir de Sony?
Non, ou là, c'est Uncharted, ça, ici.
Ouais, c'est ça. Il y avait différents comptoirs, mais le comptoir de Sony est méchant line-up.
Ouais, il y avait du monde, ça avait
aussi long que le nombre de gens qui voulaient jouer à Uncharted 4. Exactement. Là, c'est ridicule.
Donc, c'est des petits bouts de film qu'on a
acheté
fait.
Acheter des t-shirts.
Exactement. Donc, ça a été quand même une belle expérience. J'ai eu du fun. Puis ça, c'est le bout que j'ai le plus aimé. On va vous en reparler. Regardez en haut.
Ah
oh,
oui, il faut qu'on en parle.
Ouais, ça, j'ai des images de ça. Ouais. On va en reparler dans quelques instants. C'est la réalité.
London Heist.
C'est super le fun. C'est très, très cool. Vraiment. Et on s'est amusé follement. Ça a changé mon avis. Ça, c'est Dimension. OK, il y avait le kiosque. On va l'avoir, le fameux sang. Regarde, tu l'as vu commencer à gicler ici. Mais je pense que j'ai la petite vidéo qui est juste là. As-tu du son là-dessus ou non? La fille, elle s'approche. Elle n'est pas sûre. Elle parle à son chum. Ah, je peux y aller? OK, je vais y aller. OK, j'y vais. Fait que là, il va. Elle s'approche de l'épée. Pèse dessus. Et quand tout à coup, le sang se mit à gicler. Regarde ça.
C'est vraiment pour des fans. Il y avait quand même beaucoup de statuettes, des statues complètement.
Ouais,
pour se faire prendre en photo, des choses comme ça.
Effectivement.
Quelques boot babes, peut-être 3-4.
Il y a notre ami Max Tremblay qui était chez lui, comme ça. Oh non, c'est pas mal. Et ça, c'est le numéro de TPS, TFBQ. On va enlever ça. Hey, ça, c'est Yann Richard.
Toi, tu fais ça pour de vrai?
Non.
OK. Ouais. Hey!
Regarde ça, c'est League. On va parler de League of Legends. Et il voulait que je le prenne en photo. Fait que je l'ai pris en photo. Notre ami Yann, check ça. Hey, ça, c'est Frank de Tank. Ça, c'est s'il est beau, bon.
Ah, il a donc mis de la barbe.
Ça, c'est notre départ en avion. Puis ça, c'est Frank de Tank.
Ouais,
ça, c'est notre départ.
Il y a un lien.
Il y a un lien.
Parce que Frank a pris l'avion souvent dans sa vie.
Je ne sais pas.
Puis c'est ça, dans son ancienne vie.
Exactement. Et ça, regarde ça, c'est notre chambre d'hôtel. Elle était hallucinante. Regarde ça,
le tapis.
Je trouve ça difficile un peu, les lignes qu'ils ont mis par terre pour suivre le chemin comme du bon.
Fait que c'est ça que ça a donné notre périple.
T'as pas de photo du party de Just Cause?
Non,
j'en
ai pas.
Là pour relaxer, non, mais c'était pas mal le fun. C'est comme la plupart des parties de lancement, on pouvait jouer au jeu, il y avait des écrans un peu partout.
Ouais.
De la boisson en masse, puis du monde de fun.
Exactement. Merci à Anouk d'être membre encore une fois pour un 11e mois consécutif. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Alors voilà, on parlait déjà de London Heist tantôt. C'est
oui.
Vraiment, moi ça a été probablement la meilleure expérience que j'ai vécue depuis longtemps.
On était pas mal les deux sceptiques, je pense, en général. Réalité virtuelle, c'est comme, OK, ouais, c'est bien le fun, mais...
Ouais. C'est une autre bébelle.
Une mode, tu sais, on en parlait justement juste avant. Oh, mais c'est une mode, ça va-tu passer? C'est comme la Kinect, là, on en est revenu.
C'est-tu le genre d'affaire qu'on va mettre de côté après une semaine? On se posait bien des questions. Finalement,
mais là,
hein?
Ça gosse.
Ça gosse, ça travaille. Hein?
Ça gosse parce que c'est le fun!
Non, c'est bien le fun. J'ai des images de ce qu'on a essayé. On va regarder ça ensemble. C'est pas mal cool. C'est un truc qui nous place, donc, c'est fait bien sûr par PlayStation. Ça nous place au moment d'une interrogation avec une espèce d'Oligan anglais avec un accent, un gros accent cockney. Là.
Oui.
Et on n'est pas là. On n'est pas là pour rire.
Il suit du regard.
Ouais.
Il s'approche. Donc, déjà, l'effet. On s'entend que c'est de la réalité virtuelle, mais en même temps, c'est de la 3D, parce que plus il s'approche, puis plus tu l'as d'en face.
T'as quasiment son haleine dans le nez.
Ouais, ben, il pitche la fumée d'en face. Moi, je faisais comme j'étais pas impressionné. J'avais vraiment une attitude. Je suis tout de suite embarqué dans un rôle de tout de calme.
Ah non, mais écoute, c'est quelque chose de... Regarde ça, ça en vient. C'est quelque chose de quand même très surprenant. Puis, à quelque part, je m'attendais à un graphisme moins beau, moins léché, mais c'est quand même...
Ça c'est de l'ordre du AAA, tout à fait. Puis c'est drôle, il regarde la sortie à droite, on a tous eu le même réflexe. C'est pas quelque chose qui est imposé, là.
Non.
C'est que tu regardes autour de toi, puis là, tu vois la sortie.
Là, tu dis, je vais pouvoir me bailer out par là. Puis quand
mais
il allume sa torche...
Tu peux pas te sauver.
Ben non, c'est ça.
Parce que c'est ça l'affaire avec la réalité virtuelle. Puis c'est un peu ce que je disais dans mon article. Branchez-vous. Ça va peut-être un peu ramener... Les jeux sur rail, parce qu'on reste pas mal tout le temps sur place.
T'as pas le choix, parce que paraît-il que si on rajoute une autre dimension, les gens qui jouent sont portés à être malades, parce qu'il y a trop d'affaires qui se passent en même temps. Et tu bouges dans le jeu, tes jambes ne bougent pas vraiment, ton cerveau interprète un mouvement, ton oreille dit non, c'est pas vrai, c'est là que les gens peuvent être malades.
Ah ouais?
Paraît-il. Ou parce que c'est trop compliqué aussi de mettre les gens.
Mais non, mais ça va de soi que ton salon n'est pas assez grand pour faire en sorte que tu puisses te sauver sans. Même certains jeux, on se cognait des fois. pas dans le mur parce qu'on se promenait pas
trop. Moi, là, quand je me suis mis à tirer, vous allez voir le deuxième extrait tantôt, on s'est mis à tirer, un moment donné, puis ça, c'est le fun. Quand tu prends le téléphone, tu te le mets sur l'oreille.
Puis tu l'entends dans ton écouteur, juste de la bonne oreille. Ouais, ouais. C'est
moi, j'ai essayé de changer
immersif.
De main. J'ai changé de main. Puis ça, tu l'entends.
Ça a marché.
Ouais, tu sens l'autre côté.
Ben, j'ai réussi, moi, accidentellement, dans la deuxième portion du jeu, j'ai réussi à changer de main le fusil.
Oui, c'est ça. Ben, on puis, le voit, ça, ici. Ça, c'est fantastique parce que quand tu regardes le monde jouer, tu le vois faire le singerie avec les moves dans les mains. Tu ne sais pas trop ce qui se passe avant de regarder l'écran, mais c'est drôle, c'est drôle. Il y a un tiroir à un moment donné qu'il faut ouvrir et ce maudit tiroir-là, j'essayais de le fermer et il me gossait. J'avais l'impression que j'étais pour m'accrocher dedans. Fait que j'étais là, essayer, avec des grands mouvements, essayer de pousser le tiroir.
Ça, moi, j'ai réussi à le reformer.
Alors, j'ai pas été capable. Moi, j'étais trop énervé. Il y avait 3-4 gars qui tiraient dessus.
Le fameux truc, moi, je l'avais vu juste avant. Il faut trouver une clé, puis là, il faut trouver juste le bon coffre, puis tu as des chargeurs. Tu vas te faire attaquer. Tu sais que ça s'en vient.
Ça s'en vient. Puis
ce qui est cool, c'est que tu peux charger, tu charges ton gun de façon manuelle.
Ouais.
Mais là, si tu as développé des techniques, par exemple, comme un certain M. Talbot qui savait exactement comment tenir son pistolet puis le chargeur en stand-by pour pouvoir charger plus vite,
ça allait plus vite.
Ben ça marche.
Ça allait super vite.
Parce que physiquement, c'est le move que tu fais.
Ben, je m'amusais. À un moment donné, quand j'étais plus jeune, on avait accès à un champ de tir. Alors, je connais un peu le maniement des armes.
Oui.
Puis,
habituellement, on tiendrait à deux mains, on s'entend. Ça,
je le tenais, moi, avec mon chargeur.
Oui, c'est ça, tu t'aidais comme si moi je voulais avoir deux mains sur le gun, mais tu sais, vu que t'as deux mains, ça marche pas. Là,
ça allait super vite. Puis, ce que j'aime, c'est que les mains sont il n'y a pas de lag, ça répond très rapidement, c'est très, très intuitif aussi. Si tu as le goût de rester debout, tu vas te faire buter, c'est sûr. Puis, ils sont pas cons.
C'est dur sur les genoux parce que là, tu veux te pencher, là, quand vous allez voir quand il va commencer à se faire attaquer, là, fait que tu te penches derrière le bureau. Moi, j'ai essayé de passer en dessous du bureau.
Ouais, exact.
Mais je me suis accroché genre dans l'écran devant moi. Là.
Mais t'étais très drôle à voir. T'étais très drôle à voir aller. À un moment donné, on dit qu'est-ce qu'il fait là? Il était à quatre pattes puis tu tirais par en dessous. C'était super drôle.
J'essayais de tirer par en dessous du bureau. Mais c'est super. Mais je pense. Montre le deuxième.
Mais ça s'en vient.
Ok, ça c'est le bout.
C'est le bout où ça tire. Je vais montrer au monde ce que ça a l'air. Le gars était pas très bon, la fille qui jouait là. Désolé.
Mais c'était tough visé, sincèrement, parce que bon. OK, c'est cool, la réalité virtuelle. J'ai vraiment eu du plaisir. Mais l'écran, il y a un certain flou.
Ouais.
C'est pas top-notch, pas parfait encore, mais ça c'est proche.
Moi, j'ai enlevé mes lunettes à un moment donné, puis j'ai ajusté à ma vue, puis c'était mieux à ce moment-là.
On dirait peut-être que le casque était pas assez serré pour moi, parce que même serré, je voyais pas très bien.
Parce qu'on bouge beaucoup, et j'ai pas eu très chaud avec le port du casque. Non,
ça allait.
Puis il y avait beaucoup de monde là-bas, on s'est dit, on va suer comme des pâtes. Mais finalement, ça répond très, très bien, et puis c'est ça, j'ai hâte de voir. Et comme tu dis, le fait qu'on puisse pas bouger, c'est probablement lié au fait qu'on va jouer à ça devant son téléviseur.
C'est sûr. Tu peux pas te promener
dans ça. Non, mais t'as vu les inventions qu'ils ont fait, les espèces de trucs qui nous permettent
les genres de tapis, là.
Exactement.
Mais là, c'est une autre patente à acheter. Parce que là, on s'entend. T'as besoin de ta PlayStation caméra, évidemment, ta PlayStation 4, de PlayStation Move, puis le casque PlayStation VR. Mais là, est-ce qu'il va venir avec les Move ou pas? Probablement pas. C'est pas tous les jeux qui vont utiliser PlayStation Move. On a essayé Drive Club.
Ouais. Ah,
ça Drive super Club, cool. Ça. Peut-être qu'on va en reparler après ce bout-là. Mais
Drive Club, c'est que tu es sur un rail aussi, tu tournes en
tout
rond.
Tout à fait.
Alors, ça paraît pas.
Exactement.
Mais moi, j'ai eu j'ai pas eu de haut le cœur, mais à un moment donné, j'ai été comme un peu étourdi par moments, surtout quand je me penchais et je me levais rapidement.
Ah ouais?
J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? J'ai presque perdu l'équilibre à un moment donné.
Moi, j'ai perdu l'équilibre parce que mes genoux me tuaient. Pour la première portion, on a vu. Là, ça allait bien, on était assis. Pour cette portion-là. T'es dans une voiture.
Pis c'est la réaction du gars à côté aussi qui est fun. Quand tu tires, il se colle sur le banc pour se faire tirer. Quand tu tires,
j'ai tiré directement dans la face puis ça y a rien fait. Ça, j'étais un peu déçu. Faut dire qu'on revenait de Job Simulators. Ouais. On va en reparler tantôt. Mais c'était vraiment genre, ça appelle à faire le plus de niaiseries possible. Moi, j'ai pris les canettes qui traînaient, j'ai pitché dans sa face. J'ai tout fait. J'ai ouvert la porte.
Il est clairement pas nerveux. Là. Il y a une rafale de Uzi qui passe dans la face. Il est comme cool.
C'est ça. En fait, c'est une Mac 10. Je vais pas te reprendre.
C'est ça. Il est vraiment pas nerveux.
Non, il est pas nerveux.
Mais ça, c'est peut-être une version.
C'est le travail encore.
Je pense que ça, c'est la version du E3. Là, nous, on est quand même plusieurs mois après. Je pense qu'ils l'ont travaillé parce que justement, il bougeait pas. Puis
c'est ça.
Puis je me rappelais qu'il réagissait quand même.
C'est ça. Non, écoute, c'est très cool. On était tous sceptiques avant d'y aller. Comme tu dis, ça va prendre. Ça va prendre les moves pour y jouer, ça va prendre toutes sortes d'affaires qu'on a déjà, tu sais.
Mais
moins.
Exactement, les moves.
Parce que j'ai moi, sont, c'est neuf. C'est neuf.
Tant mieux qu'ils réutilisent la même patente, que ce soit compatible.
Avec la caméra puis tout, là, on le voit ici. Ça. Et ben, non, ça fonctionne très bien. J'ai été surpris. Est-ce que ça va être un truc... là, il faut faire attention. Parce qu'il
Est-tu dans le hype?
On est-tu dans le hype, un? Puis deux, est-ce qu'il va y avoir assez de jeux? Est-ce que les concepteurs de jeux vont en faire beaucoup? Parce que là, on a attendu jusqu'en 2016 hein, pour les lancer. C'est pas pour rien, là.
Oui, mais 2016, c'est demain matin.
Oui, mais à la mi-2016. J'imagine que ça va être peut-être juste avant Noël, peut-être.
Mmh, OK, bon, je sais pas. Moi, je pense que ça va être au moins l'été prochain. Peut-être. Il va y avoir de quoi.
Oh, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne veulent pas reproduire l'erreur d'une certaine console qui a sorti puis il n'y avait pas de jeu. Parce que là, ça, c'est plate. T'sais, quand tu arrives puis tu n'as pas de jeux qui sont annoncés puis tu dois absolument vendre tes lunettes, là, c'est ça.
Ça, London Heist, j'ose espérer qu'ils vont, ils vont se rendre quelque part, mais c'est peut-être juste une démo technique. Puis ça se peut. Sony a déjà présenté des jeux, démo technique que tu n'as jamais vu après.
C'est ça.
Des jeux qui avaient l'air le fun.
Mais là, il y a trop de hype là-dessus autour.
C'est ça.
J'ai comme l'impression qu'on n'a pas le choix de nous offrir ça.
Il y a quand même eu plusieurs projets. D'ailleurs, Ace Combat 7, qui est un simulateur de vol, va intégrer la réalité virtuelle. Même chose avec Drive Club. Puis ça, on l'a essayé, Drive Club, puis c'était cool. Bon, évidemment, il y avait le beau siège, puis le volant, puis toute la patente comme une vraie arcade. Sauf que tu as la réalité virtuelle, puis quand tu es conducteur, genre, checker tes angles morts, tout ça se fait tout seul. Le sentiment d'immersion, moi, je trouverais ça vraiment cool dans un contexte de conduite automobile, puis je peux l'imaginer dans le contexte de piloter un jet, de regarder derrière toi si.
Mais j'ai fait un petit peu de course dans le temps des aventures. Puis, mais c'est vrai, avec Bertrand. Puis, là, en course, tu regardes où tu vas aller. Si tu regardes le char, tu vas rentrer dedans. Si tu regardes le champ, tu vas rentrer dans le champ. Mm-hmm. Si tu courbes, tu regardes la sortie, tu vas bien sortir. Bon. C'est la même affaire. Puis le gars nous disait, les gens qui sont habitués de jouer à des simulateurs de voitures puis qui sont habitués de regarder juste en avant, embarquent avec les lunettes, puis ils font la même chose, ils bougent pas. C'est quand qu'ils se rendent compte qu'ils font ça comme ça. Là, ils oublient de conduire.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est vraiment, c'est une belle job. Toi, Max, qui est un amateur de Forza, là, tu vas capoter.
Oui, bien d'ailleurs, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Moi, c'est un des intérêts les plus forts pour moi de la réalité virtuelle, c'est les jeux de voiture. Parce que tu ne peux pas avoir plus immersif que ça, d'avoir le casque sur la tête, de te tourner naturellement pour voir les autres véhicules qui sont autour de toi. Puis même profiter un peu de l'intérieur de ton véhicule, regarder le volant, la façon que la modélisation est faite en dedans, juste pour en profiter. Je suis encore un peu sceptique parce que ça reste une technologie que vous devez l'avoir sur la tête pour que ça se vende bien. Vous l'avez essayé. Nous, non. À l'écran, ça se présente vraiment très mal parce que c'est une expérience qu'on doit essayer. Mais puis il y a des gens qui me disaient qu'ils avaient peur que ça devienne la prochaine 3D. J'espère que non.
Non, je ne penserais pas.
J'espère que non, mais je pense que le prix de vente de la patente au début, au lancement, va être bien important aussi pour essayer d'aller chercher au moins une certaine base niche de gens de très fans qui veulent absolument tester ça. Puis après ça, que ça puisse s'épanouir un peu puis que le prix puisse baisser avec le temps.
J'ai hâte de voir là, effectivement combien ils vont vendre ça.
Je pense qu'ils peuvent se permettre à ce que ce ne soit pas si cher que ça. Parce que sincèrement, les écrans, si on compare avec l'Oculus Rift, je pense que l'Oculus Rift est plus que 1080p. Ouais. C'est de l'équivalent de 2080p, je suis comme plus sûr. Là, mais parce qu'en termes de définition, ça a l'air d'être un petit peu moins précis. Mais en termes d'expérience, c'est pas mal pareil. Je pense que l'essayer, l'Oculus, toi aussi.
Oui, c'est semblable.
Très identique.
Ce qui me fatigue de toute cette technologie-là qui s'en vient sur le marché, c'est que pour ton PlayStation 4, va te falloir les lunettes de Sony. Pour ton Xbox, Microsoft va se réveiller, puis ils vont faire des lunettes Xbox. Puis pour ton PC, tu vas avoir
en fait, Oculus Rift. Il n'y a rien qui empêche Oculus de rendre sa patente compatible. Je pense pas que la première va l'être, parce que là, ils demandent tellement un hardware spécifique.
Ouais.
Mais je pense qu'éventuellement, on va avoir une certaine normalisation.
J'espère, parce que te vendre du hardware pour après ça te vendre des jeux à 70$ sur lequel il faut t'acheter un season pass et que tu payes pour ton downloadable content.
À
un moment donné, là.
Les joueurs de console ont pas. La majorité des joueurs de console n'ont pas le budget pour avoir deux consoles. D'habitude, tu choisis ton camp, Xbox ou PlayStation. Ouais. Mm-hmm. Fait que les gens qui ont déjà une PS4, ils l'ont acheté il y a 2 ans, par exemple, ben de se permettre de payer quelque chose à 200-300$ de plus pour avoir d'autres types d'expériences, ben ils peuvent piler leur argent puis peut-être se lancer là-dedans. Moi, je vois pas vraiment un problème à ce niveau-là, étant donné que c'est pas... Avoir plusieurs consoles, c'est pas commun. Nous c'est notre
cas. Travail. Parce
que, mais je veux dire, là, c'est pour jouer à des jeux. Le Oculus Rift, il va avoir comme d'autres types de trucs. Tu vas pouvoir regarder des films avec...
C'est ça que je me demandais.
Ben, regardez un film. Même Microsoft a montré HoloLens avec... Tu t'ajustes la taille de l'écran, puis regarde
ça
Netflix,
sur le mur.
Puis, Ouais, puis j'ai une télé, je comprends pas. Ouais. Tu vois, je vais me promener ouais. en. Non, je sais
pas. Ben, attends, pas. Moi, j'ai pas essayé encore de le faire. Ça peut être cool, à un moment donné, si t'es dans une salle d'attente, puis t'as le Wi-Fi, puis ça te tente d'écouter
ouais,
le film.
Ouais, ouais, mais...
bon, à l'aéroport. Ouais, mais
pourquoi tant qu'à ça, à te limiter à oh, je vais mettre un écran de 110 pouces?
Ben, c'est
mais
ça.
Non,
pogne ton iPhone, puis crisser dans ta face, puis c'est top. Comme ça, ben, s'il y a quelqu'un qui vient te déranger, puis te demande ah, je trouve que t'as l'air moins niaiseux que de tes lunettes. Là, t'enlèves
ton
casque. Tes haut-parleurs, t'enlèves tes lunettes. Nous, on était dans une bulle, là, faut le dire.
On était dans une ouais. bulle, tu dis. On
c'est
était
ça
dans,
que le gars avait l'air.
On était dans un univers complètement... On a oublié la réalité autour. On était avec ce gars-là qui voulait nous brûler. On était sur des carrés en train de tirer de la mitraillette contre des méchants.
Non seulement ça, Job Simulator. Toi,
oui,
tu l'as essayé?
Non, j'ai pas essayé, finalement.
C'est tellement drôle. OK, on est en 2050. Puis là, les ordinateurs... veulent nous rappeler, nous, les êtres humains, ce que c'était d'avoir une job. Parce qu'évidemment, ouais. tous les jobs ont été remplacés
par des
robots. C'est tous des robots ou des ordinateurs qui font ça. Donc, ils ont créé un environnement virtuel, mais c'est selon leur propre interprétation. Okay. Fait qu'il y a certaines lacunes drôles et loufoques. Bon, graphiquement, c'est pas top, mais c'est pas ça qui est important.
C'est un démo technique pour montrer les possibilités
ben,
que tu
je pense
faire.
Qu'ils vont sortir.
Ah, ils vont sortir,
c'est vraiment
c'est,
drôle.
C'est dans le
ça
même ordre.
Pas si cher que
c'est
ça.
Comme tranche de pain simulateur ou chef simulateur.
Oui, les genres de niaiseries, fun qu'il y a sur Steam, c'est exactement dans cette lignée-là. Puis par exemple, le photocopieur va pas reproduire une feuille, la reproduction papier non. de ton bang que tu as mis dessus. Il va te donner un deuxième bang parce que pour eux, ça copie, fait qu'il donne une copie. Fait que là, moi, je vais ramasser avec plein de bangs. Puis là, chaque bang, j'ai pitché sur l'ordinateur qui essayait de m'aider. T'sais, c'est vraiment un ordinateur avec une face qui est debout à côté puis qui dit, genre, c'est quoi la prochaine tâche à faire. Puis là, moi, je m'en foutais. J'allumais l'ordinateur, je rebranchais les affaires, j'essayais de pitcher à souris. J'ai pitché du café dans la face de tout le monde.
Il y a Max qui veut intervenir.
J'étais
Max.
Mongol.
Hey, Laurent, je sais pas si tu as joué sur PlayStation au jeu Surgeon Simulator, mais il me semble que ça, avec le casque de réalité virtuelle, ça doit être... écœurant dans tous les sens du terme.
je l'ai pas joué, mais c'était il n'y avait pas un jeu de médecine sur Wii quand
oui,
il est sorti?
Donné,
je pense que
oui,
hein.
Oui, oui, semblable.
Est-ce que tu faisais des opérations? Oui, Trauma Inspector? Trauma?
Peu importe, il y en a un, je sais, mais avec ça, imagine-toi, là, tu rentres dans le... ça peut être bien drôle. J'ai salué Will Smith qui est là.
Trauma Center.
Il y a Will Smith qui est avec nous ce soir, un cousin français. Hey, bonne mère. Je te salue. Hey, salut, merci.
Ah oui,
d'être
il a appelé justement quand on était chez Bob.
Exactement. Je te présente Will, je te présente Alexis Cornelier, je te présente Robert.
T'es encore là-dessus.
Laurent Lassalle.
Les fans de Monsieur Net de première heure, là, ils doivent être crampés en ce moment.
Oui, parce que
là,
Laurent, c'était mon. Tu y ressembles comme deux gouttes d'eau.
Je sais pas c'est qui.
Ben, ça pourrait être ton père. Bon. Et puis, je te présente également Max Tremblay, ici, qui fait partie d'un autre podcast qui s'appelle L'épée. Légendaire. Donc, on parle un peu de ce qu'on a vécu du côté de San Francisco, l'expérience, pour ceux qui viennent de joindre nous. On a eu du fun, on s'est amusé beaucoup.
Je pense que ouais, ça fait une demi-heure qu'on en parle. Pis,
non,
je
mais...
sais, moi, déjà, je chiale sur tout, puis là, je t'emballise quelque chose. Soyez surpris à la maison.
Ouais.
C'est pas top, c'est pas parfait,
non.
mais c'est drôlement mieux que ce à quoi je m'attendais. Même chose pour toi.
Ah oui, je te jure. Moi, ce que j'ai peur, c'est... J'ai peur... Il y a beaucoup de jeux qui ont été annoncés, qui sont littéralement des portes. Entre
ouais,
autres,
ben, Res Infinite, ça peut être cool d'être vraiment plongé dans l'environnement, mais ça va être optionnel d'ailleurs. Là.
Exact.
Il y a plein de jeux qui ont l'option de PlayStation VR, puis je pense que ça, c'est bien pour éviter de segmenter le marché.
Merci beaucoup à Black Kiss Québec, qui est membre pour un 12e mois. Un an! Hey, wow, un an! Merci beaucoup, Black Kiss. C'est très apprécié. Très, très apprécié.
T'as raison dans ce que tu viens de dire, dans le sens où, habituellement, quand ils sortent un espèce de gizmo comme ça, que ce soit un tapis de danse, que ce soit une caméra, que ce soit, leur espèce de bâton move, ils font des jeux qui sont que pour ça. Puis, tu te retrouves, en fait, qu'à un moment donné, ben, comme il n'y a pas de traction, comme il n'y a pas de masse critique d'utilisateurs, t'as plus de jeux. T'sais. T'as acheté le cossin pour les jeux de lancement. Il y a 3-4 jeux qui sont pas pires.
Ouais.
Ben, ils ont quand même... C'était un peu le problème avec la Kinect, mais il y avait quand même pas mal de jeux où la Kinect était optionnelle. Malheureusement, Microsoft... ou heureusement, ils ont peut-être compris que ça pognait juste pas. Je sais pas, là, mm-hmm. mais il y a eu un changement à ce niveau-là. Ça veut pas dire que parce que ça a foiré pour Microsoft, le périphérique en question, que PlayStation va pas miser là-dessus.
Mais, si tu regardes, on était limité. Si on compare les deux, là, ce qu'on a vécu avec la réalité virtuelle puis oui. Kinect, la Kinect, on était limité au niveau des actions qu'on pouvait faire. Mm-hmm. Parler, jaser, sauter, puis pencher, puis te lever, c'était pas mal ça qu'on
faisait. C'est ça. Tirer un fusée avec une Kinect, tu pouvais pas vraiment. Non, il faut appuyer sur un bouton. Là, les moves, ils ont des boutons.
Ouais, puis enfin, on va s'en servir. Puis mes fameux guns en plastique que je peux mettre, je vais pouvoir m'en servir. Enfin, ils sont neufs, ils sont là. Puis mes moves aussi, je m'en suis jamais servi. Ben presque
parfait.
Pas.
T'en as-tu en extra?
Non. Alors, c'est ça que j'ai peur.
Ils sont tous chez Yann?
C'est ça, c'est Yann qui m'a emprunté. Mais c'est ça que j'avais peur, c'est qu'on soit limité à être assis sur un rail constamment. Mais les simulateurs d'auto m'ont fait changer d'idée. Ce que j'ai vécu avec London Ice m'a fait changer d'idée également.
Ça risque d'être sur rail quand même.
Ça va être sur rail.
Je sais pas comment, mais ils vont rendre ça plus intéressant. Parce que faut dire, l'expérience sur rail, ce qui est plate, c'est que justement, ça bouge tout seul, c'est un écran de télévision, puis là, tu fais juste peser sur des patentes. Mais une fois que tu es plongé dans l'environnement avec des lunettes, tu peux regarder partout. Tu as une liberté de contrôle déjà au niveau des mouvements parce que tu as deux moves.
Ouais.
Fait que c'est toi qui décides exactement les gestes que tu poses. Puis tu as une liberté de caméra. Bon, tu n'as pas la liberté de te déplacer, mais c'est un moindre mal comparé à tout ce qu'on gagne à côté. Là.
Non, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire encore. Mais les simulateurs de vol, ça va être fantastique.
Tout à fait.
Piloter un Cessna, un simulateur, un vrai simulateur, ça va être incroyable. Tu vas pouvoir te promener, regarder ton trafic, tout ça, voir les pistes. Quand tu ouvres la porte, quand tu joues au jeu, puis tu regardes en arrière de la voiture, c'est fantastique. Tu oublies ça.
C'est la deuxième portion de London Ice. Vers la fin, on pouvait ouvrir la porte pour commencer à tirer ceux qui s'en venaient.
Wow. Ouais, ça rajoute une dimension qui est pas mal intéressante. Fait que c'est ça. Puis le simulateur d'espace m'a un peu déçu. Moi, je me souviens plus du nom. Ça se passait.
J'ai pas eu la chance de l'essayer.
Ouais, mais c'était comme.
Eve Valkyrie.
C'est ça, me semble.
Quelque chose comme ça. Là.
Ben, j'ai pas été emballé par ça. Il fallait que tu tournes ta tête.
Il y a bien des gens qui trippaient.
Ouais.
Moi, j'ai entendu beaucoup de bien.
Ouais. Il m'a pas venu me chercher.
Il m'apparaît comme un Laurent Lassalle qui chiale. Ah. Mais en version Talbot. Donc, d'accord.
C'est ça, c'est ton contact.
Je t'accorde le bénéfice du doute.
Ouais, non, c'est ça. Mais les voitures de course, ça a été intéressant. Drôle de phénomène. Qui s'est produit pendant que j'essayais justement Drive Club. On était dans une espèce de voiture ancienne de course. Là.
Ouais, un genre de F1. Là.
Ouais, une vieille F1. Puis, à un moment donné, c'est que tu pilotes, tu fais un dépassement, le gars en avant toi freine pour éviter l'autre gars, lui. Alors là, tu as un léger contact, mais tu le sens pas physiquement, mais ton cerveau reçoit l'information que ça va puncher. Parce que ça a l'air vrai, là. Lui, là, tu l'as.
Ah, oui.
Il est complètement berné, ton cerveau. Là. Tu te dis, ça va puncher, ça va faire mal, ça va cogner. Il n'y a rien. Là, ça a fait comme... Oh! Un petit
mal... bizarre.
Ouais, ça m'a fait
c'est
bizarre.
C'est un peu... peut-être, comment tu t'es senti? On reparle encore de London Ice, le getaway.
Ouais.
Quand il y a la personne qui tombe dans le windshield, moi, j'étais carrément... J'avais la face dedans. Là. Fait que j'ai reculé de peur.
Ça te fait un
peu comme un film de 3D. Mais
as-tu fait un petit feeling dans Bédène, non?
Non.
Moi, j'essayais de l'aider pour enlever le pare-brise.
Ouais, ça marchait pas.
Non.
Le Job Simulator, on peut absolument tout faire. Je veux dire, avec les deux moves, dire « OK, je vais utiliser telle patente, tout marche. » Avec ça, on peut contrôler la radio, on peut ouvrir le coffre à gants, il y a plein d'affaires qu'on peut faire quand même, mais c'est pas encore, genre...
Mais
justement, je pitchais des canettes à mon conducteur, puis il bougeait pas, ça.
Non, mais ça va arriver, je suis pas mal sûr qu'ils vont pas finir ça.
Qu'ils la reçoivent d'en face, qu'ils sacrent après moi, qu'ils me donnent une taloche, je sais pas.
Ça va arriver, parce que moi, je l'aurais fait. Mais
je ferais un stage à une compagnie pour programmer un NPC pour qu'il t'en sac une si tu pitches des canettes d'en face.
Hey, attends un petit peu. Là, il y a Ubisoft qui a sorti son simulateur d'aigle où tu vas pouvoir jouer.
Ça.
J'ai vu des images, j'ai oublié de le sortir tantôt. Mais ça semble pas mal cool aussi. On va pouvoir jouer un volatile emplumé qui se promène dans des décors qu'on connaît. Ça semble intéressant. L'as-tu vu passer, Max?
Oui, j'ai vu ça passer. Sauf que on voit que c'est une espèce de simulation de vol où est-ce qu'on est des oiseaux.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on doit faire exactement dans ce jeu-là? J'ai pas tout à fait bien compris. Peut-être que comme vous étiez sur place, vous avez plus d'informations là-dessus, mais sinon, j'ai l'impression que ça semblait plus une expérience, une démo technique d'une certaine expérience, puis que les éléments de jouabilité vont venir un peu plus tard.
Probablement, mais écoute, en fait, c'est brillant ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recyclé certains décors qu'on a vus dans les Assassin's Creed, tout ça. Et là, on les parcourt à vol d'oiseau dans une espèce d'histoire qui nous mène 50 ans après que toute civilisation ou toute vie humaine est partie, donc on se promène là-dedans. Écoute, ça doit être assez immersif quand même de pouvoir voler puis de s'amuser. On va l'essayer, puis on va vous en reparler. J'aimerais ça accueillir quelqu'un d'Ubisoft, d'ailleurs, ici. On va essayer de faire
mais des... pas en démonstration, non. Je ne l'ai pas non. vu. C'est sorti après. Juste comme ils l'ont présenté.
Juste ouais. après, exactement. Alors, ça fait le tour, je pense, de notre expérience de réalité virtuelle. C'est très intéressant.
Il y avait beaucoup de stock. On peut pas parler.
66 jeux, je pense. 66 jeux,
c'est ça? Je pense même plus. Il y avait deux étages.
Oui.
C'est le Moscone Center. C'était la première fois que j'y allais. J'allais au Moscone Center, pas pour un événement Apple pour la première fois.
Mais c'est trop petit, ils prennent plus ça.
Oui, c'est vrai, mais j'y suis jamais allé avant. Il y avait un beau Apple Store juste à côté.
Oui, juste à côté.
On n'a pas voulu rentrer si t'étais pas là. On voulait non. pas qu'on fasse.
Je comprends.
Annonce, d'un jeu japonais aussi qui est sorti. Là. Moi, pour moi, ça a été la plus grosse annonce en termes juste de jeu.
Ni no Kuni?
C'est un peu concret, les Ni no Kuni 2.
Ouais.
Donc, ça qui est un jeu très niche, mais très apprécié par ceux qui y ont joué et qui aiment le genre. Donc ça, je pense que ça va être encore... C'est Level 5 qui font ça, ils font tout le temps du bon stock. Ils font des jeux exclusifs pour Sony, pour Nintendo aussi, donc je suis pas inquiet pour ce jeu-là.
Mais la réaction, quand ils l'ont annoncé, la réaction a été puissante. Capoté. J'ai d'ailleurs tweeté ça. « Wow, le monde capote! » Puis certains m'ont dit « Moi, tu sembles pas, toi, capoté! »
Mais non, c'est un... Nous autres, on est des gars de char et des gros pipes, hein, c'est ça.
C'est tout.
Ouais, mais on s'entend, c'est un JRPG. Là, ouais. C'est vraiment pointu, c'est niche, comme genre.
Mais la réaction...
Final Fantasy VII, c'est beaucoup plus commercial et connu et commun. Puis ça aussi, la réaction était forte. Folle, ouais,
pour Final Fantasy, le système de combat est actif maintenant plutôt qu'être tour par tour.
C'est comme pas clair. Dans le trailer, c'était pas clair non plus. Je pense que c'est voix changée, mais c'est surtout le format qui va être épisodique.
OK.
Ouais.
Fait que c'est ça. Ouais. Les gens ont capoté. Ils en ont même pas parlé lors de la conférence. Ils en ont parlé après, en coulisses.
Ouais.
Mais je trouve que c'est une bonne idée. Bon, faut voir le prix maintenant. Là, mais pour s'assurer de couvrir tous les éléments du jeu, ils veulent faire ça comme ça. Je pense que c'est une bonne chose. Sinon...
Mais la réaction était excellente, encore une fois, lorsque les gens l'ont annoncé. Alors, voilà.
Faut dire que c'est un événement public. Donc, les fans de la marque sont là. Fait qu'ils sont très enthousiastes. Quand ils ont montré un nouveau personnage de Street Fighter...
T'es malade.
Dont j'ai oublié le nom, là, Magog, Mogog, je sais plus trop qui,
Magog.
Là. Moi, ça ne me disait rien.
Et sa fille, Canton de l'Est. Il y a Sir Weiser qui vient de devenir membre. Merci beaucoup. C'est très apprécié, M. Sir Weiser. On va y aller maintenant avec un nouvel ordinateur qui est sorti... Notre ami Johnson l'avait, hein, Maxime?
Oui, le Pixel aussi.
Le Pixel aussi. Et toi aussi, tu l'as, Max? Est-ce que tu l'as essayé?
Non, je ne l'ai pas encore. Pour toi, branchez-vous, je pense, Laurent, c'est Steve Rodrigue qui est en train de tester ça, c'est bien ça.
Ouais. Steve, c'est notre Android guy. Fait que j'ai dit communique avec eux autres, puis reçois les patentes.
Très bien.
Ouais. Mais c'est ça, c'est un appareil de type hybride, une tablette qui se veut aussi peut-être un peu plus productive avec un clavier qui est disponible en accessoire. C'est qu'on n'en avait pas entendu parler depuis un certain temps, mais moi, je me posais la question, est-ce que c'est sorti? Est-ce que ça va sortir avant Noël? Finalement, Google sont arrivés aujourd'hui. Tous les grands sites web aujourd'hui ont publié leurs critiques en même temps. Le produit est disponible sur le Google Store canadien à partir de 649 $ pour la version 32 GB ou 799 $ pour la version 64. Ce qui ressort essentiellement, c'est que c'est une tablette Android de très, très bonne qualité physiquement, tant la tablette que le clavier, mais que le logiciel n'a pas été suffisamment optimisé pour le produit. Mais je suis quand même vraiment, vraiment curieux d'essayer ça. Moi, j'étais un grand amateur de produits hybrides, de tablettes, claviers mélangés ensemble. Je veux tester le iPad Pro, je veux tester le Pixel C aussi. J'ai une Surface moi-même parce que j'étais un amoureux de ce concept-là. Donc, c'est disponible dès maintenant. Vous pouvez aller faire un petit tour sur leur site web. C'est un écran de 10 pouces, d'une excellente résolution, un processeur Tegra X1, 3 GB de mémoire vive, une caméra arrière 8 mégapixels. Et puis, ça pèse seulement 517 grammes, donc c'est assez léger quand même. Donc, c'est très intéressant comme produit.
Paraît-il, c'est ça, que le logiciel ne fait pas l'unanimité, comme tu disais. Les gens qui se disaient, je vais travailler avec ça, ça va être le fun, ils ont été déçus un petit peu. Puis, paraît-il que le clavier n'est pas assez gros pour pouvoir effectuer toutes les tâches qu'on voudrait. Est-ce que j'ai hâte de le voir.
Ouais. On a un écran qui est format, eux, ils disent, c'est format racine 2.
Ouais.
C'est essentiellement comme une feuille A0, de format A0. Ça ressemble à une feuille de papier presque standard. Ce qui arrive, c'est que comme c'est un écran juste de 10 pouces, on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse des certaines compressions au niveau des touches pour que ça rentre avec la largeur. Donc oui, probablement que la touche est un peu plus crampée. On a peut-être un peu moins d'espace pour les mains. Mais que le clavier serait de très bonne qualité quand même, par contre, avec une belle profondeur pour les touches aussi. Puis Ce qui est intéressant, c'est un clavier Bluetooth, mais il se recharge automatiquement par induction avec la tablette lorsque la tablette est sur le clavier directement. Donc ça, je trouve ça quand même cool comme innovation. Puis c'est un système magnétique qui retient la tablette, donc on doit l'inverser pour que la bande métallique colle sur la tablette. Et puis ensuite, on relève, puis le bout de support tient. Donc on a quand même un bel angle. Puis si on n'a pas de clavier, ben c'est pas grave, on peut prendre la tablette puis la coller sur notre frigo pendant qu'on fait à manger.
Donc, ça semble intéressant. On va essayer de mettre la main là-dessus.
Maxime l'avait, il nous a montré un peu comment ça fonctionnait le clavier. Ça va l'air un peu bizarre de se rappeler le bon angle pour que ça snappe. Justement, la partie aimantée pour pouvoir l'utiliser.
On l'a vu un peu farfouillé, essayer de trouver comment ça fonctionne.
C'est très clac-clac, mais ça a l'air d'être un bon produit. Il semblait heureux avec ça. Mais...
C'est quoi? C'est 500-600 piastres qu'ils vendent ça?
Oui, bien sûr.
Environ, je pense que c'est 500-600 $. En tout cas, US, c'est ça?
$649 pour la version 32 Go au Canada, puis $799 pour la version 64.
Alors voilà. J'étais en train de défiler mon feed RSS, en fait, pour regarder pour des nouvelles pour aujourd'hui, puis... J'ai vu passer ça et les reviews qui étaient sortis et c'était tout une très bonne tablette avec un gros défaut, une très bonne tablette mais avec des erreurs de débutant, une très bonne tablette mais...
C'est toujours ça. Hein. C'est Android est maintenant le seul système d'exploitation tablette qui n'offre pas de multitasking.
À un moment donné, ils vont s'ajuster. J'espère qu'ils vont le faire à un moment donné parce qu'ils vont se tirer dans le pied. Ce qui arrive avec ça, à un moment donné, c'est que les gens ont le choix d'aller payer un montant de 500 $ ou payer un petit peu plus cher pour avoir une tablette qui le fait.
Oui, puis l'autre questionnement, c'est pourquoi cette tablette-là ne tournait pas Chrome OS aussi, parce que Chrome OS est beaucoup plus près d'un ordinateur si on veut vraiment atteindre l'objectif de productivité.
Ouais, mais... Ça, pour Chrome OS, par contre, il y a la rumeur comme quoi, c'est comme pas clair qu'ils veulent l'intégrer avec Android. Puis là, il y a le patron d'Android qui a dit non, on va le garder, mais probablement qu'on va simplifier la patente. Fait que d'après moi, ça s'enligne vers ça. Puis c'est la raison pourquoi le Pixel C n'avait pas Chrome OS dedans.
Ah, ça se peut fort bien. D'autre part,
à suivre,
comme dirait l'autre. Là, Apple est allé d'une annonce surprise. Son fameux chargeur qui est supposé... En fait, c'est pas un chargeur, c'est une batterie qui vient se greffer, qui doublé de chargeur aussi, ça donne un peu plus d'énergie. Ça a l'air d'un étui de... C'est pour les 6 et les 6 plus, je pense.
Tout à fait.
Ça a l'air d'un patentage.
Ça a l'air d'un étui qui a ravalé un iPhone 5.
Oui, voilà. Dessine-moi un mouton, tu fais un boa avec un éléphant dedans,
en fait,
puis ça donne un case pour iPhone 6.
Je me demande si la forme derrière, c'est pas l'équivalent du premier iPhone, tu sais, en termes de dimension. Peut-être un peu trop large, je sais pas, en tout cas.
Mais écoute, parle-nous un peu de ça.
Aujourd'hui, en fait, ça a été une grosse journée pour Apple, qui probablement, après avoir vu plein d'annonces comme ça à San Francisco, s'est dit « Moi aussi, je veux qu'on parle de moi ». Donc, aujourd'hui, il y a eu plein de lancements. Le premier matin sur lequel je suis tombé, c'est le Smart Battery Case. Qui est un étui en silicone. Donc, habituellement, quand on achète un étui batterie, on se retrouve avec quelque chose qui est en plastique. Et le plastique, en fait, ne va pas nécessairement être un très bon étui si, à l'intérieur, il n'y a pas un matériel absorbant. Tu échappes ton téléphone dans un case de plastique dur, il est dur à l'intérieur, ben il y a des bonnes chances qu'il
pète.
Il reçoive le coup. Donc, en silicone, c'est une bonne idée. On a vu en fait des vidéos où est-ce qu'on mettait le téléphone à l'intérieur de la housse. C'était très rapide, c'était intéressant. Le deux tiers, si on veut, de la patente, le bas est rigide, alors que c'est le petit bout en haut là, qui est comme un capuchon de hoodie que tu mets par-dessus. Ouais. Mais c'est laid. Ça n'a aucun sens. Puis c'est... En fait, on ne sait pas trop, on en parlait, moi et Laurent, avant le début du show. Puis moi, j'ai lu à des endroits qu'ils ont fabriqué le case et fallait qu'ils contournent les brevets que, par exemple, Mophie aurait.
C'est qui ça, Mophie?
Mophie, c'est un des premiers fabricants et un des plus connus à sortir des cases qui ont des batteries intégrées.
Okay.
Et qui vendent ça relativement cher. Tu peux trouver des cases batteries intégrées pour vraiment pas cher, mais... ton téléphone n'est plus capable de téléphoner quand tu mets ça, les affaires chinoises.
Mais c'est surtout le problème, tu as un port micro USB souvent, fait que tu ne peux pas utiliser le Fire
Lightning.
Port. Là, avec la solution d'Apple, c'est le même port, donc c'est plus simple. Tous les appareils qui utilisent le Lightning Port vont ainsi être compatibles. Puis, quand on le connecte, justement, TechCrunch avait sorti un screenshot, on voit, au lieu d'avoir la batterie qui recharge, on voit deux batteries. On voit le pourcentage de batterie de votre case, donc la batterie d'appoint, puis le pourcentage de batterie de l'appareil. De voir ça séparé, c'est vraiment intéressant. Puis probablement que, bon, évidemment, Apple peuvent se permettre ça, étant donné qu'ils contrôlent le logiciel. Puis moi, le défaut que j'ai toujours imaginé avec les Mophie Pack, les Mophie Juice Pack, ça charge tout le temps la batterie. Puis on sait qu'utiliser un téléphone, généralement, tu essaies de ne pas l'utiliser tout le temps connecté. Il faut que tu vides des fois la batterie. Mais là, ouais, si tu utilises tout le temps une batterie d'appoint, là, je ne sais pas s'il y a quelque chose au niveau des algorithmes qui fait en sorte que Apple, quand ben, tu charges ton truc...
smart, tu sais.
Oui, ben justement, peut-être fait que...
Qu'est-ce qu'il y a de smart dedans?
C'est peut-être ça... qu'il met la batterie du téléphone sur pause, fait qu'elle n'est pas constamment en recharge, elle est juste genre endormie pendant qu'il utilise l'autre batterie.
Mais ce que j'ai vu également, c'est qu'on a mis des antennes aussi dedans pour éviter une espèce d'antenne gate, encore une fois.
Ah oui? OK.
Ouais, pour permettre une meilleure captation du signal.
Ce qui est un petit peu dommage, c'est d'abord que Apple ait gardé, en fait, certains de ses API secrets pour pouvoir sortir quelque chose de plus cool parce que c'est eux autres qui se permettaient de le faire.
C'est pas la première fois qu'ils le font.
Non,
là,
mais...
C'est pas la dernière fois non plus.
Non, probablement pas. Mais c'est un peu plate d'arriver sur le marché puis de dire « Hey, regarde, nous autres, on innove parce qu'on est capable de faire ça. Ouais. » Les autres aussi auraient été capables de le faire si tu leur avais laissé faire. La deuxième chose, c'est qu'il y a un souci depuis des années de Apple d'amincir le téléphone. Et... là, c'est un peu un constat de « Oups, on a peut-être trop aminci, on aurait peut-être dû y donner comme un 2 mm de plus, puis mettre une batterie de plus. » Le monde n'aurait pas nécessairement chialé, puis aurait surtout capoté parce que « Hey, tu peux faire 18 heures ou tu peux faire... »
Ouais, mais attends, là, là, on parle d'un case qui coûte 129 $ canadiens.
Ouais.
Ça veut dire que ton appareil... au moins 100 $ de plus que le prix que tu as payé pour justifier toute cette patente-là. Moi, je pense que...
Non, parce que là, tu as la recherche et développement, tu as le connecteur en dessous, tu as le smart, je ne sais pas quoi.
Sincèrement, je pense que ce produit s'adresse aux consommateurs qui en ont besoin. Ce n'est pas tous les consommateurs d'iPhone qui en ont besoin. D'ailleurs, le nouveau mode, j'en parle tout le temps, le mode d'économie
d'énergie. En survie, d'ailleurs.
Ça sauve des vies. Tu aurais dû t'en servir plus tôt dans la journée.
C'est vrai,
tu
as raison.
Je le mets tout de suite... parce que, bon, lui, il a manqué de jus, mais moi, j'étais correct. J'ai pas eu besoin de recharger.
Ben, c'est parce que j'ai fait des Meerkat, j'ai fait des toutes sortes d'affaires, des Periscope.
Les données à l'étranger. Let's go, j'ai de l'argent. Moi, j'étais comme...
C'est Radio Talbot qui paye, let's go.
Mais finalement, genre, j'ai acheté un forfait. Bon,
aussi, j'ai acheté un forfait.
Partir, j'ai acheté un forfait de 500 MB, puis j'ai juste dépensé 50 MB.
Ouais.
J'ai appris ça aujourd'hui en appelant Fido. J'aurais tellement... Puis j'y allais vraiment...
Parcimonieusement.
Exactement, j'aurais dû être généreux puis rentrer dans l'Internet.
Moi, j'ai été généreux, j'ai rentré dedans, j'ai brisé l'Internet.
Il y a eu, il y a eu d'autres choses aussi qui ont été annoncées du côté de Apple, donc une mise à jour du côté de iOS à 9.2, une mise à jour du côté de OS X à 10.11.2, tvOS qui a été mis à jour avec finalement le support de l'application Remote que personnellement, je n'ai pas encore réussi à faire marcher. Donc, quand ils ont sorti le Apple TV 4, l'application Remote qui te permettait d'avoir un clavier, donc de taper des lettres plutôt que d'avoir le bon vieux système que tu vas d'un bord à l'autre avec
ta
télécommande.
La nouvelle Apple TV vient avec sa télécommande.
Elle vient avec la télécommande, mais non, c'est un touchpad. Okay. Puis là, ben tu sais, quand tu écris ton nom à l'arcade, là, tu t'envoies d'une lettre à l'autre. C'est comme ça que tu écris sur l'Apple TV. Donc, les gens voulaient avoir le remote. Là, c'est fait. Le monde, il capotait. Il est en train de s'arracher la tête sur les internets. WatchOS qui a été mis à jour aussi, qui supporte plus de langage. Et un petit truc, en fait, qui est assez intéressant du côté de Apple parce que ça nous en dit un peu plus. Il y a un lecteur de carte SD qui est sorti. Donc, un adaptateur Lightning à SD pour les iPad Pro. Et en tout petit, gris, pas trop foncé dessus, c'est écrit que le taux de transfert est en USB 3. Donc, quand iFixit avait démonté le iPad Pro, ils avaient vu que le contrôleur était un contrôleur USB 3, mais Apple n'en parlait pas. Et là, à la sortie de ce gizmo-là, de ce périphérique-là, le lecteur de carte SD, on se rend compte que oui, il y a du USB 3 là-dedans. Donc, ça veut dire que Lightning a une possibilité d'être USB 3 au niveau du transfert. Et ça veut dire que c'est peut-être quelque chose qu'on va voir apparaître aussi sur le prochain iPhone et sur le prochain
ça,
iPad.
C'est dans quel iPad?
C'est dans l'iPad Pro.
Pro,
OK. Parce que le lecteur de carte SD qui est sorti est USB 3.0 okay. avec le iPad Pro, mais USB 2.0 avec les autres iPads.
Bon, au moins, il marche avec les autres c'est... iPads parce que le crayon... Tu sais, moi, je veux dire, ils me l'ont prêté, je vais sortir la critique probablement la semaine prochaine, ils m'ont prêté l'iPad Pro, puis le crayon marche même pas avec rien d'autre.
Mais ouais. Moi, ce que j'ai trouvé ridicule avec le crayon, c'est que tu le plantes directement dans le truc, puis il sort long de même.
Mais c'est clair qu'avec la rallonge,
ouais, mais c'est niaiseux.
Ah, je sais.
L'accroche, c'est fini, là.
Mais c'est juste 30 secondes pour une heure d'autonomie, par exemple. C'est ça qui est au moins, ouais. Si tu veux le recharger plus longtemps, après ça, tu peux t'offrir beaucoup plus, mais pour une recharge rapide, c'est juste 15 ou 30 secondes pour une heure.
Moi, j'ai lu
15 secondes pour 30 minutes.
Ah, okay.
Alors, à ce moment-là, c'est pas pire. Mais quand t'as un petit gars de 7 ans qui court partout dans la maison, tu t'assures est-ce que ton crayon soit pas branché de même.
En même temps, il marquette pas la tablette pour que tu la laisses chez vous à côté de ton petit gars de 7 ans. C'est une tablette professionnelle.
Ouais, mais que tu te lèves trop rapidement, tu l'accroches.
C'est clair qu'un accident peut arriver. Ouais. C'est pas game over, c'est pas hyper tight non plus, fait qu'il peut décrocher quand même assez facilement.
Mais d'où le connecteur aimanté aurait été brillant pour faire ça à ce moment-là. Hey, merci beaucoup à Coolman Skate qui est redevenu membre pour un 12e mois consécutif. Yoleman, merci beaucoup, c'est très apprécié.
J'ai une question pour Alexis rapidement. Tu penses-tu, Alexis, que considérant les frais que Apple doit payer en Europe, parce qu'ils n'ont pas un fil standardisé pour recharger leur iPhone. Eux, ça leur coûte un bras et une jambe à toutes les années à cause de ça en Europe. Qui passerait peut-être au USB-C à la place pour les prochains appareils ou ils continueraient vers Lightning?
Là, ils l'ont choisi pour le MacBook, le USB-C, et ils ont laissé tomber le MagSafe là, pour ça. Ils étaient contents du MagSafe et sont retournés à un port qui est un... Il y a quand même quelque chose qui rentre dans l'appareil qui est fixé là. Donc, oui, j'ai tendance à penser, mais sur les appareils iOS, d'après moi, ils ne vont pas mettre de USB-C. Ils vont rester avec le Lightning encore un bon bout de temps. Ne serait-ce que parce qu'ils ne veulent pas avoir le contre-coup de gens qui disent « Bon, ils ont encore changé de port! »
Il est légèrement plus mince aussi par rapport à USB-C, hein.
Les gens ont gueulé back in the days.
Apple a changé de processeur genre deux fois dans sa vie. Genre, Apple n'a pas peur de changer quoi que ce soit. Ça ne me surprendrait pas. Il pourrait bien décider de changer de port. Puis...
C'est vrai, mais on était à des générations différentes et on était aussi avec des parts de marché qui étaient différentes.
Ouais.
Là, tu vas t'adresser à des millions et des millions de gens que tu as déjà fait chier en passant du 30 pin au Lightning. Puis là, c'est pas longtemps, là. C'est juste seulement le iPhone 5 qu'on a eu le Lightning. Il changerait à quelque chose d'autre aujourd'hui. Alors même que les avantages qu'on peut avoir avec le USB-C, on voit que Apple peut aller les chercher. Le port Lightning est compatible avec le USB 3.0. Donc, moi, je pense pas qu'il change bientôt. De toute façon, Samsung leur a donné 500 quelques millions pour payer ça en Europe.
Oui, c'est ça, effectivement. Ça l'a aidé un peu.
Ouais, voilà. Ça leur a regagné leur coffre, déjà plutôt vide.
Écoute, ils n'ont pas une scène pour t'y perdre. Ils font dur.
Ah oui.
Ils font dur. D'autre part, si vous avez des trucs sur... moi, j'ai des trucs sur Dropbox. Est-ce que je dois m'inquiéter, M. Tremblay?
Je pense pas. Je pense pas qu'il faut s'inquiéter pour Dropbox. Par contre, si tu utilisais le service Mailbox, là, il faut que tu t'inquiètes. En fait, tu t'inquiètes pas. Tu vas commencer à regarder pour migrer tes choses rapidement. Parce que Dropbox ont annoncé hier que le service qu'ils avaient acquis en 2013, qui s'appelle Mailbox, qui était une... Si on veut une expérience courriel plus intéressante, plus proactive, donc pour offrir vraiment une nouvelle expérience, ben ça ne fonctionne plus chez Dropbox pour eux. Je pense que c'est peut-être trop difficile à soutenir puis à suivre le développement. Donc, ils ont décidé de laisser tomber ce service-là, ainsi que Carousel, un service qu'ils ont créé en 2014 qui servait essentiellement, qui était une expérience photo pour... profiter de ces photos et les partager différemment, donc via aussi le service de Dropbox. Donc, je ne sais pas si c'est parce que la compagnie va moins bien. Peut-être que Laurent en sait un peu plus que moi là-dessus. Mais la compétition est féroce Dropbox pour Dropbox depuis que les trois très grands majeurs, là, si on parle de Google, Apple et Microsoft, offrent leur propre solution de stockage en ligne.
Je ne sais pas, mais moi, je fais beaucoup de photographies, puis je n'ai jamais été attiré par ce service-là. Et puis il y en a tellement de services qui offrent du stockage de photos maintenant que, tu sais, on s'en sert beaucoup pour s'échanger des trucs. Ben,
moi, je le trouve super pratique. Il est pratique, il est très pratique. Mais pour les fichiers. Beaucoup avec les fichiers, les échanges de fichiers avec les gens. Mais c'est pas parce qu'il était parmi les premiers. Comme moi, je pense à Drop.io qui permettait aussi ça avant.
Avant.
Là, on parle de stockage de l'image. C'est pas parce qu'ils étaient les premiers qui sont nécessairement genre en meilleure posture. Parce qu'effectivement, comme Maxime disait, Samsung, Microsoft offrent des services semblables avec leurs appareils. Amazon aussi. Exactement.
C'est ça. C'est mais Mailbox, en fait, qui était un service que Dropbox était allé chercher, qui était surtout connu pour avoir réussi à faire une file d'attente plus longue que celle de Apple, c'est-à-dire à peu près 3-4 mois. C'était un système où est-ce que tu t'abonnais, puis là, tu voyais en quelle position tu étais dans la file d'attente, genre 92 millième, 803e.
Okay.
Puis là, ça descendait, puis là, tu avais comme 3 mois après, tu recevais un email qui disait « Hey, tu viens d'arriver, comme voici ton compte Mailbox. » C'était comme « Je m'en fous. »
Oups, qu'est-ce qui a fait ça?
Je pense que c'est Maxime qui fait... Je pense qu'il y a...
J'ai pas rien touché, j'ai
Il y a pas de bruit qui sort.
Je pense que c'est les coutures coréennes.
Il y a des bruits bizarres qui sortent de la Chine.
Il y a drôle de bruit, mon vieux. Autre
chose à propos de Dropbox, c'est que à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'eux aussi... il fallait qu'il y ait une espèce d'écosystème de logiciels. Donc, ils sont allés chercher Carousel, Mailbox. Et là, c'est une espèce de constat, je dirais, que bon, ben, pour eux autres, la recette de l'écosystème ne fonctionne pas. Mais ils risquent éventuellement de tomber dans l'oubli parce que en ce moment, c'est pas compétitif. C'est hyper facile à utiliser. Mais Google Apps va te donner, Google Drive va te donner plus d'espace. OneDrive va te donner plus d'espace.
Il faudrait qu'ils ajustent leur politique peut-être.
Ils vont donner pas juste plus d'espace, mais aussi les services pour modifier tes fichiers directement en ligne. Et c'est vrai pour Google, c'est vrai pour iCloud, c'est vrai pour OneDrive aussi.
Donc, il faudrait qu'ils bonifient leur offre s'ils veulent perdurer, je pense.
Puis, funny fact à propos de Dropbox, le gars qui a inventé le service s'est fait appeler à un moment donné dans un certain bureau à Cupertino et il y a un certain monsieur habillé avec toujours un col roulé noir qui a dit combien. Le gars, c'est un fan, le créateur de Dropbox, c'est vraiment un fan fini de Steve Jobs. Puis le gars, il a hésité, puis il a dit non, on va prendre notre chance tout seul. T'sais. Puis il venait de dire non à Steve Jobs alors qu'il trippait dessus. Il est sorti du bureau, puis il a fait. Puis Steve Jobs, il a dit tu te rends compte que si on t'achète pas toi, on va créer notre propre truc, puis on va te manger. Puis le gars, il a peut-être vu dans le futur, puis il a fait comme ben, plus ou moins, là, je pense pas que vous mangiez parce que vous êtes pas capable. Mais il y a d'autres services qui sont en train d'émerger, selon moi, puis qui sont plus intéressants.
Cette page d'histoire, mesdames et messieurs, est une gracieuseté de la bière simplement. C'est le moment de payer les billes. Alors ce soir, moi, j'y vais avec une ale bavaroise de blé bavarois, très très bonne.
Moi, j'ai la tête chercheuse. C'est une blanche. Blanche noire.
Ouais, exactement.
C'est comme pas clair, c'est blanche ou noire.
Elle est noire, mais elle a le goût d'une blanche.
Tout à fait.
Ouais, vas-y, et toi, mon vieux?
Moi, j'ai la saison belge et à date, il y a ça, puis la cravate sur lesquelles je tombe et que j'aime bien. Donc, je suis bien content. C'est une bonne bière que j'apprécie boire en ce mardi soir.
Merci beaucoup. C'est une petite tradition comme ça. Merci beaucoup à Simple Malte qui nous encourage comme ça. Et je suis content de ne pas vivre aux États-Unis et d'avoir dans la face M. Donald Trump.
Hey, on est parti juste au bon moment.
Hein. Hey, man.
On est parti avant qu'ils disent une niaiserie. Là, il en dit tous les jours. Peut-être qu'il a dit une niaiserie.
Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas qu'il trouve Bill Gates ou faut qu'il trouve Bill Gates et que Bill fasse Bill. Donald, Donald? Non,
mais il faut expliquer d'abord.
Expliquons. Parce que dans un de ses speeches, pour contrer le terrorisme, paraît-il, et éviter que les Américains, les jeunes, se fassent ramasser par ISIS,
le groupe armé État islamique,
il faut bloquer l'Internet.
Ferme un shop.
On ferme ça, cet Internet-là.
3 heures, on ferme.
On ferme l'Internet, puis ça va régler tous les problèmes.
Il faut aller parler aux gens qui sont au courant, puis leur dire qu'il faut bloquer ça.
On a un extrait.
On n'a plus l'extrait.
On n'a plus l'extrait, tout est mort. Bon, ben,
Attends un peu, je vais aller le chercher. Prends du temps, je vais aller le chercher. Explique un peu ce qui s'est passé.
Donc, Donald Trump, évidemment, candidat à l'investiture républicaine de 2016, a proposé de débrancher Internet parce qu'il faut absolument faire quelque chose.
Ben oui, il faut faire
important. Non, mais on s'entend que C'est vrai que la situation est grave, mais dire des niaiseries, je suis pas sûr que ça peut faire rire, mais c'est peut-être pas la solution.
Mais parce qu'il y a des gens qui prennent ça pour du cash.
Ouais, donc, lors d'un discours qu'il faisait devant un rassemblement républicain à Pearl Harbor, il a dit « Nous perdons beaucoup de gens à cause de l'Internet et nous devons faire quelque chose. Nous devons aller voir Bill Gates et beaucoup d'autres personnes qui comprennent vraiment ce qui se passe. Nous devons parler avec eux pour voir s'il n'y aurait pas moyen de fermer Internet dans certaines zones d'une façon ou d'une autre. »
Regardons ça maintenant dans sa version originale. OK? Écoute.
Moi, je ne l'ai pas imité. Stop calling them masterminds. These are dirty, rotten scum.
These aren't masterminds. C'est parce que...
Remember the guy in Paris with the big dirty hat? Remember the guy in Paris? The mastermind. I was watching all the network. I won't mention who, but some of them disgusted me. The mastermind is on the loose. The master. And we have kids that are watching the internet, and they want to be masterminds. And then you wonder, why do we lose all these kids? They go over there. They're young. They're impressionable. They go over. They want to join ISIS. And we have our anchors. I think I got them mostly stopped. Did you notice that? I don't hear it too much. But they say, the young mastermind. Oh, he's brilliant. Young man, he's brilliant. I don't even think he's got a high IQ. I call him, in Paris, I called him the guy with the dirty, filthy hat. Okay? Not a smart guy. A dummy. Puts people in there. A mastermind. Bing, bing, bing. They start shooting everybody. You got to be a mastermind. So the press has to be responsible. They're not being responsible because we're losing a lot of people because of the internet. And we have to do something. We have to go see Bill Gates and a lot of different people that really understand what's happening. We have to talk to them, maybe in certain areas, closing that internet up in some way. Somebody will say, oh, freedom of speech, internet.
Freedom of speech.
These are foolish people. We have a lot of foolish people. We have a lot of foolish people.
Policiers,
non, c'est pas un roast, c'est un speech.
Le président américain, il fait ça une fois par année.
C'est beau ta naïveté de penser que c'est pas vrai.
Non, mais il a l'air sous.
C'est un fou furieux, ce gars-là.
Je sais que c'est un fou furieux, mais il a l'air parti quand il se met à parler pour les autres. Puis
il veut faire un mur. Il veut faire un mur entre le Mexique et les États-Unis, payé par les Mexicains.
La plus récente déclaration controversée, c'était carrément de fermer la frontière pour tous les musulmans. Tant qu'on n'aura pas compris ce qui se passe. C'est bien important de comprendre ce qui se passe. Lui, il n'a pas l'air de comprendre grand-chose, mais...
La frontière du Canada, il faut la fermer pour toujours. Parce qu'il passe par là. Comprenez-vous, là? Il passe par là.
Il passe par les socialistes du Nord qui ont un système de santé gratis. Il n'y a pas moyen de faire de l'argent avec ça. Ce gars-là deal avec les gens... T'sais, il dit « Ah, les musulmans, tout le kit. » Il fait des affaires avec le monde au Qatar. Il fait des affaires avec le monde en Arabie Saoudite.
Tu dis n'importe quoi. Non, fermons l'Internet.
Bref, tout ça pour dire qu'aux États-Unis,
parce qu'il risque de gagner,
les
c'est même
choses
pas drôle.
Se passent. Ce n'est pas drôle. Non. Ça se peut qu'il risque de remporter l'investiture républicaine. Ouais. Je ne sais pas s'il va remporter le poste du président. Là, pour l'instant, il est juste candidat pour être républicain. Mais même parmi les républicains et les démocrates, les gens qui sont indignés par rapport à la déclaration qu'il a faite concernant la fermeture de frontières des musulmans.
Écoute, mais pour revenir... Les gens font des parallèles entre lui et Hitler.
Il remplace musulman par juif.
Exact.
Check comment ça se passait en 1935.
Je suis désolé, je crois que Hitler, quand il s'est fait élire... n'était pas radical. Il n'y avait pas de déclaration aussi intempestive. Mais tout ça pour dire que, du côté américain, le républicain Joe Barton, lui aussi, a proposé de fermer les sites et les réseaux sociaux employés par les terroristes, dont le groupe armé État islamique. Mais là, c'est pas clair si c'était les comptes ou les sites au complet. T'sais, si tu utilises Facebook, est-ce qu'on ferme Facebook au complet?
Anyway, Anonymous s'en occupe en ce moment. La guerre est pognée sur le web.
Hillary Clinton qui souhaite que les entreprises issues du secteur technologique aident à prévenir l'utilisation terroriste de communication cryptée.
Il n'y aura plus de Wi-Fi gratuit nulle part.
Barack Obama, essentiellement, un peu la même chose. C'est que les chefs de file en technologie et les forces de l'ordre déploient plus d'efforts pour empêcher que les terroristes tirent profit de la technologie afin de fuir la justice.
J'en ai parlé, je pense, la semaine passée ou la semaine d'avant, là, que le gouvernement américain était en ce moment en train de poursuivre les compagnies pour que leur, la sécurité puis l'impossibilité de rentrer, de taper dans un téléphone, entre autres iMessage, qui est très difficile à décrypter. Ils peuvent demander les logs après coup, mais ils ne peuvent pas faire d'écoute électronique. Ouais. Puis là, le gouvernement qui est en train de dire « c'est pas grave, continuez, on va aller se connecter sur le cloud, c'est bien plus facile à rentrer, puis on n'a pas besoin de se connecter sur l'appareil directement, on va tout avoir ce qu'on a de besoin en hackant le cloud, puis vous le saurez même pas. »
Ah, d'accord. C'est inquiétant, tout ce qui arrive en ce moment, puis j'avoue que ça m'inquiète au plus haut point. J'aime pas ça, ce qui se passe. J'haïs ça.
Ben, surtout avec, en France, le Front National a fait une percée. Fait que là, quand je regarde Donald Trump, ouais, effectivement, on peut se poser des questions.
C'est, en tout cas, on va changer de sujet parce qu'on va downer. Il y a une autre affaire qui est sortie pour nos amis qui décident, Mozilla, de sortir une application sur iOS pour bloquer les trucs iOS, c'est ça?
Pour bloquer des contenus.
Les contenus, quand même, ça, je vais te montrer, je le lis ici.
Focus!
Oui, mais attends un peu, là, tu me
focus, Denis, focus!
Regarde, cette espèce d'application-là ici qui ressemble à ça. Ici, attends un peu, je vais vous le montrer. On mixe ça, boum. Ça s'appelle Focus, justement. Et quand je le pars, ça donne ça. C'est disponible. Qu'est-ce que ça fait, ça, cette affaire-là?
Bon, essentiellement, c'est un bloqueur de contenu et non un bloqueur de publicité. Ouais, c'est-à-dire que ça fonctionne comme un bloqueur de publicité, excepté que ça va bloquer seulement les contenus qui utilisent des trackers pour collecter les données personnelles afin d'afficher, par exemple, des publicités ciblées. Okay. Donc, les publicités qu'on considère intrusives, ça, ça les bloque. Mais ça ne bloque pas toutes les publicités. Des publicités génériques qui s'affiche plus par rapport au contexte de la page que par rapport à vos informations à vous, là, vont continuer de s'afficher.
Là, c'est marqué « Blocking other content tracker may break some videos and web page ».
Oui, ça, c'est parce que tu as différents critères. Là, on les voit en ce moment à l'écran. Ouais. Donc, le premier, je pense, c'est bloquer la publicité. Le deuxième, bloquer les analytics. Ça, c'est les mesures statistiques pour savoir combien de visiteurs visitent... les statistiques de fréquentation de site Internet.
Les social trackers, après ça.
Oui, le troisième social tracker, ça,
avec
c'est
le
tout
pixel
ce qui est lié,
Facebook. Puis,
tout ce qui est lié avec les réseaux sociaux, connexion, machin chouette. Et le dernier, c'est vraiment comme bloquer aussi les autres trackers. J'ai l'impression que si on choisit le dernier, ça bloque pas mal tout. Les pubs, je ne sais pas.
Là, l'affaire
du
que
moins,
je sais
ça
pas...
va bloquer des plugins, ça, c'est sûr. Puis c'est pour ça qu'ils...
Ouais, l'affaire que je comprends mal, c'est est-ce que je le laisse rouler en background ou s'il est installé?
Ça, je sais. Je n'ai jamais utilisé un bloqueur de pubs sur iOS. Puis justement, c'est un point assez drôle, c'est que ça marche juste avec Safari.
Ouais.
Parce que iOS permet, le type d'application de blocage de pubs, permet seulement d'interagir avec le navigateur de Safari et non les navigateurs tiers. Ça fait que c'est une restriction du côté d'Apple. Mozilla a dit qu'elle allait peut-être travailler justement pour essayer de voir s'ils peuvent l'intégrer directement dans Firefox. En fait, je vois pas pourquoi ils pourraient pas mettre à jour Firefox.
Ben
parce qu'il faut dire que toutes ces préférences-là, tous ces paramètres-là sont déjà disponibles sur Firefox, sur Linux, Windows, OS X et Android. Non, tu n'auras pas de version Android de ça parce que tu l'as déjà dans ton navigateur.
C'est inclus dedans.
C'est un peu étrange, mais c'est sympathique. Il utilise une liste de trackers qui est publique, il y a une définition qui est publique. Tout est open source. C'est tout sur GitHub. Donc, les gens qui connaissent ça peuvent voir exactement comment ça fonctionne. Puis, les créateurs de pub ou les créateurs de whatever contenu qui voient que leur contenu est bloqué, ils peuvent aller voir pourquoi c'est bloqué, comment essayer de régler la situation pour qu'il soit cochère aux yeux de tout le monde.
Puis toi, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, monsieur?
Bien, les bloqueurs de contenu et non bloqueurs de publicité, là, mais bloqueurs de contenu, c'est le terme large dans lequel rentrent les bloqueurs de publicité. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée avec iOS 9. Et effectivement, ce sont des plugins que Apple nous laisse faire pour se plugger après Safari. C'est pour ça que ça ne jase pas avec d'autres furteurs.
Mais dans le fond, quand tu ouvres l'application et tu paramètres, c'est comme si c'était les defaults dans tes
Exactement,
settings.
Ça va aller changer.
Tu peux aller les fermer puis ça reste appliqué. Il n'y a pas besoin de laisser focus.
Tu n'as pas besoin de laisser l'application rouler en arrière-plan.
Okay, ça je me posais comme question.
C'est ça. Ouais. Maintenant, ce qui se passe, on le sait en fait, c'est que l'Internet fonctionne beaucoup sur un modèle de publicité. Les premiers à avoir sorti, en fait, tout de suite après que iOS 9 soit sorti, il y a des gens qui ont sorti des bloqueurs de publicité gratuits. Puis le gars en a vendu, là, il vendait ça comme une pièce ou deux. Il en a vendu, il a fait une pile de cash en deux jours, puis il s'est rendu compte qu'il était peut-être en train de faire quelque chose qui ne faisait pas nécessairement du bien à Internet. Mm-hmm. C'est-à-dire que la publicité, s'en débarrasser au complet avec des ad blockers et des trucs comme ça,
Ça fait mal.
Ça peut être correct pour nous autres parce qu'on ne veut pas en consommer de la publicité, mais de l'autre côté, en fait, ça fait mal à Internet et éventuellement, il va y avoir du contenu qui va disparaître. Si tu n'avais pas de publicité,
exactement.
Toi, branchez-vous, ça disparaît. Puis je pense que c'est nécessaire. C'est...
Que ça disparaisse?
Non.
Hey.
Je pense que branchez-vous est nécessaire.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est exactement. J'ai essayé d'éduquer un peu. J'ai des personnes qui commandent souvent sur mon site, puis eux sont comme non, moi je bloque tout. Rah! Puis là, j'explique, c'est parce que vous êtes sur un site qui fait ses revenus avec
la
pub.
C'est ça, ouais.
Tu sais, pensez. Ouais, mais il y a tellement de sites qui en mettent plein. Ouais, mais essaye de faire une exception pour brancher vous. Regarde, la plupart des adblockers permettent justement de choisir tel site. Tu m'affiches tout le temps la publicité. Même les gens, je suis désolé, sur YouTube, là, c'est bien le fun d'avoir un adblocker sur YouTube. Plus besoin d'attendre après aucune vidéo. Mais c'est parce que les gens qui produisent ces vidéos-là, c'est un revenu le fun. Des fois, c'est juste un revenu d'appoint.
Mais les gens, ils comprennent pas
ça. Vous êtes
ça,
en train de creuser là-dedans. Ouais. Parce que moi, j'ai une chaîne YouTube. Puis je l'aime, mon petit revenu le fun. C'est sûr que si j'en avais plus, ça pourrait me permettre de faire plus d'affaires, d'acheter peut-être de l'équipement, puis d'avoir de meilleures capsules pour plaire à plus de gens. Puis là, ça fait une boucle.
Faire plus de poudre pour
tout
travailler plus.
C'est la même chose avec Radio Talbot, je veux dire. Toi, par contre, sur ton site radiotalbot.tv, il n'y a pas de pub sur...
Non, moi, je mets en chemin avec le financement participatif, les dons
ça, c'est un beau système, c'est excellent.
Mais ça a ses limites, comme n'importe quel
exactement.
Autre système, c'est ça.
Tout à fait. Nous aussi, on songe à ça, le Patreon et machin chouette.
Nous, on y va avec placement de produits. Tu sais, c'est très efficace, ça fonctionne et les gens sont contents.
Vous ne pouvez pas bloquer ça.
Non. Fait que c'est
mais
ça.
C'est de la bonne
une
bière,
chance si parce tu... que ça rentre solide.
Non, tu veux pas bloquer ça. Ouais.
Fait que c'est ça. D'autre part, monsieur Max Tremblay est arrivé avec une nouvelle intéressante aujourd'hui concernant ce nouveau système de messagerie offert par PlayStation qui nous permet de jaser donc avec les boys et les girls qui sont dans notre liste d'amis. Merci beaucoup à Black Hall qui nous suit présentement sur Twitch.
J'ai raté ça, c'est une excellente idée.
Eh oui, alors
vraiment,
je veux dire salut à Nick qui nous écoute peut-être. Salut Nicholas. Alors, je ne sais pas si ça s'en va directement sur le PlayStation. Comment ça fonctionne, Max? Attends-tu, j'ouvre ton volume, ça va.
Il se connecte avec le système de la PlayStation 4 qui était déjà disponible dans l'application PlayStation sur iOS et Android, mais celle-là est vraiment axée pour la messagerie et la discussion avec ses amis. Ça ressemble énormément au design de l'application Facebook. Donc, on peut même s'envoyer des gros emojis avec... puis jaser plus rapidement avec ses amis qui sont sur PlayStation, s'ils sont prêts à jouer, recevoir les notifications et tout. Donc, si vous êtes vraiment fan de parler avec vos amis qui sont sur PlayStation maintenant, une application iOS et Android qui est axée et qui ne sert qu'à ça. Et si vous avez un téléphone Windows, ben tant pis pour vous autres.
C'est gratuit, il faut le dire. C'est absolument gratuit, c'est important
c'est
de le dire.
C'est absolument gratuit, ça utilise votre compte PlayStation, ça utilise vos contacts PlayStation uniquement. Ça ne semble pas se connecter avec d'autres services, du moins pour l'instant. Et Sony disent qu'ils font ça pour vraiment améliorer l'expérience connectée sociale du service de la PlayStation 4.
Mais c'est juste intelligent. Moi, j'ai même pas vu ça passer. Je suis comme fâché, là. Je vais en parler demain matin.
Ben oui. Ben oui. Puis écoute, toujours sur les iPhones, il y a un petit cadeau qui nous est offert jusqu'à minuit, Max.
Oui, et ça, il faut falloir faire rapidement parce que c'est jusqu'à minuit ce soir. C'est le jeu Monument Valley qui est gratuit présentement sur iOS. C'est un jeu qui a reçu le jeu de l'année Apple 2014. Et le meilleur design Apple pour 2014 aussi est présentement gratuit. C'est un petit jeu super cute où vous devez guider la princesse à travers un monde de fantastique d'architecture un peu étrange. Donc, ça semble super bien. Le jeu comme tel est disponible sur toutes les plateformes, incluant Windows aussi cette fois-là. Mais c'est parce que l'affaire, c'est qu'il est gratuit présentement. Jusqu'à minuit ce soir sur iOS. Donc, si vous avez l'occasion d'aller chercher Monument Valley dès maintenant, profitez-en. C'est gratuit, ça a l'air super beau.
C'est de la drogue, ce jeu-là.
Ouais. Si vous connaissez pas Monument Valley, c'est l'équivalent du moment zen le matin à radio. Tu joues à ça, puis c'est apaisant. Et la raison, en fait, pour laquelle il est gratuit, c'est fort probablement que la première portion du jeu certain temps, ils considèrent qu'ils ont fait leur argent avec. Et un peu plus récemment, ils ont développé en fait un contenu téléchargeable qui, lui, est payant si vous passez à travers la première portion du jeu, qui est la plus longue, en fait, des portions. Il y a comme 10 tableaux ou quelque chose comme ça dans la première portion. C'est vraiment un jeu excellent. C'est un jeu d'ambiance.
Merci beaucoup à Éric Olivier de son don de 10$ qu'on vient de voir apparaître. C'est très apprécié. Donc, c'est tout à fait zen. On respire.
Je me demande si j'avais-tu fait la critique dans le temps de M. Nett, parce que il me semble que ça fait genre 3-4 ans que c'est sorti.
Excusez-moi,
j'ai un message. On teste-tu les courses ce soir? Nous demande Sir Maximum. Il parle des courses dans Destiny, probablement. Et j'ai envoyé des messages un peu partout pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Notre ami Nicolas nous a répondu tantôt sur le PlayStation. Ça va, mon champion? Et voilà, c'est ça. Alors, ça vous tente de vous procurer. C'est gratuit jusqu'à minuit ce soir. Et chapitre 2, le jardin, dans lequel Ida se lance dans une quête de pardon. Alors, allons-y. Touchons Python. Ah, Ida. Tourne ça ici. Hop, un autre message. Laurent Lassalle vient de m'envoyer un message. On va voir ce qu'il dit. Ah, un peu Laurent Lassalle.
Comme quand c'était dedans, c'est juste comme yo.
Yo.
Voilà, merci.
Merci beaucoup, mais Laurent Lassalle.
Je ça marche. Pas
non, non, mais t'as brisé un beau moment.
C'est toi qui l'as brisé, c'est toi qui as cliqué sa notification.
Je le sais bien.
T'es pas capable de résister à une notification. Pas capable.
Merci beaucoup à The Prescription qui vient de devenir membre de Radio Talbot. À part ça, donc, Monument Valley, check. Mozilla Focus, check. Netflix, trois choses. Netflix, ils vont doubler leur production. Hein, est-ce qu'ils ont le vent dans les voiles, Netflix, tu penses?
C'est délicat. En tout cas, si vous aimez Jessica Jones ou si vous aimez Marvel, ben ouais. Vous aimez sûrement Netflix.
C'est sûr.
Puis là, on se demande s'il va y avoir plus de personnages Marvel. Il y en a déjà assez. Ils peuvent en faire en masse. Mais à un moment donné, c'est le fun de faire d'autres choses. Donc, il y a le directeur de la programmation de Netflix, Ted Sarandos, a annoncé la semaine dernière que le service comptait intégrer 31 téléséries originales au cours de 2016.
31, man.
Faut savoir qu'en 2015, il y en avait déjà 16. Donc, on passe de... C'est quasiment le double. De 16 à 31, ça, c'est juste au niveau des téléséries.
Okay.
Sinon, on va avoir le droit à 10 films d'envergure, là, type hollywoodien, mm-hmm. 30 émissions pour enfants, 12 documentaires et 10 stand-up, là, des spectacles humoristiques. Tout ça, des exclusivités, des productions originales de Netflix. Donc, Netflix, il va assez fort là-dessus, mais en même temps, ça se comprend parce que Netflix fait face à une concurrence de plus en plus forte, surtout aux États-Unis. Mais on le voit également au Canada, on a des services comme ShowMe. La plupart des télédistributeurs puis les câblodistributeurs décident de partir leur propre service. Puis eux, je veux dire, ils ont les moyens de négocier pour avoir des services de distribution. Ils font déjà pour leur propre chaîne. Des fois ces entreprises-là, ces entités-là, ont des chaînes spécialisées en télévision. Donc, quand ils veulent avoir un certain film récent puis avoir les droits de distribution pendant genre les 6 prochains mois ou l'année, ben ils négocient avec l'ayant droit, le studio. Mais là, ils peuvent dire, ben là, on a notre service Internet puis on veut aussi le distribuer là-dessus. Fait que il est mieux de ne pas être sur Netflix. On veut l'exclusivité. Fait que c'est comme ça que des contenus disparaissent de Netflix de temps à autre. Puis Netflix, pour essayer de combler ce manque-là, parce que...
Ouais.
Parce que ça gosse, ben ils produisent leur propre contenu. Mais là, en produisant leur propre contenu, ils font la promotion de leur propre contenu. Tu sais, quand on regarde Jessica Jones, c'est pas écrit Jessica Jones en haut à gauche. C'est le beau logo de Jessica Jones avec Marvel. Tu sais, c'est comme pas mal plus cute. Tout est plus cute. Tout est mis de l'avant.
Mais ça me dérange pas. Moi, mon plaisir demeure le même.
Tout à fait. Mais pour le producteur de contenu indépendant, lui qui veut vendre ses choses, ben il sait que ça va être moins... La vitrine va être moins alléchante chez Netflix.
Ouais.
Fait que c'est sûr que s'il y a un autre service qui offre en plus d'argent, mais il va
faire le tour.
OK, on va passer ailleurs, puis là, ça devient un cercle vicieux parce que là, les relations deviennent un peu plus faibles. Regarde, Netflix, ça va finir par être une chaîne comme HBO qui va juste avoir son contenu.
J'ai hâte de voir.
J'ai vraiment l'impression que ça va se ramasser comme ça.
Mais écoute, ils ont donné la chance à beaucoup d'acteurs qui n'auraient pas eu de diffuseur ou qui auraient été obligés de faire des pilotes. Pense juste à Kevin Spacey quand il a fait House of Cards.
Ben oui,
il était proposé partout.
Il était déjà très réputé. Mais c'est ça. Même chose avec Jessica Jones, une présentation, je pense, de Daredevil aussi, c'est ABC Studios.
Exactement.
L'impression que c'était des pilotes qui avaient été tournés pour la ABC qui a rejeté,
qui ont mais qui, du qui avait quand même, même.
qui avait quand même, je pense, des, les droits par rapport à la distribution du, ouais, du concept. Fait que c'est pour ça qu'ils sont là à titre de producteur. Mais Netflix l'a repris. Comme Netflix a repris Unbreakable Kimmy Schmidt, que j'ai adoré, qui est une comédie qui était prévue pour NBC, qui se ramasse exclusivité Netflix. Je veux dire, c'est vraiment intéressant ce qui se passe, mais c'est ça. J'ai comme l'impression que ça va finir par être une boîte de production. Puis
L'espoir est revenu dans, dans le cœur des Brown Coat, les fans de Serenity et de Firefly, parce qu'ils vont, ils vont peut-être acheter cette série-là, que ça fait comme 15 ans que le monde veut qu'il vienne acheter.
Les gens le souhaitent, en tout cas.
Ouais. Moi,
pas toi, hein? Pas toi.
Non,
pas toi.
Écoute, non, mais je veux dire, regarde, ça, Fox a tiré à la plug, ils ont même fait le film, puis en tout cas. Bon. Moi, je me mêle pas de ça. Là. Benoît va être fâché. Benoît Mercier.
Bon, je tiens à dire un gros merci à... Comment il s'appelle là-bas? C'est Jawad pour son don. C'est très apprécié. Également, salutations à Patoski, qui nous suit maintenant sur Twitch, ainsi que Balter. Merci d'être là, les amis. C'est très apprécié. Où on est rendu avec tout ça? Là? Attends un petit peu. Tu veux-tu nous parler de ton vaisseau là, qui a changé de nom, toi? Là?
Ben, en fait, c'est une petite nouvelle... C'est un petit fait dans le jeu Eves Online, qui est un jeu de un MMO qui roule depuis peut-être aussi longtemps que World of Warcraft,
ça
fait un petit bout. Il y a un truc qui s'appelait le Interbus Ship Identification System. Ça s'appelait Isis. Puis là,
Ils
l'ont comme un petit peu changé de nom parce qu'Isis.
Il y avait l'entreprise, je pense, qui était chargée de l'immigration au Canada. Que c'était vraiment. En plus, le logo, c'était Isis, mais c'était immigration pour le service.
Le monde syrien, il arrivait ici, il sauvait Isis. Puis genre, il arrivait, puis c'était comme l'acronyme du truc gouvernemental qui les accueillait, c'était genre... Isis. Puis c'est comme, oh non.
Immigration Services Integration Social Machine.
Parle-moi d'Assassin's Creed maintenant.
Oui, ben en fait, c'est quelque chose qu'Ubisoft n'avait pas parlé depuis un certain temps. Il y a 3 jeux d'Assassin's Creed, une trilogie en fait, de petits jeux, des side-scrollers. En fait,
donc en 2,5 dimensions.
Exactement.
Ou en défilement latéral. Merci beaucoup, messieurs. Merci.
J'ai mieux vu.
En fait, il a cherché fort parce que j'avais marqué dans mes notes bonne chance pour Francis Side-Scroller, mais il connaît ses latéral. Affaires. Là.
C'est dans ses gènes.
Ah, donc, le jeu s'appelle comment? Il s'appelle
Il y a 3 jeux. Donc, Assassin's Creed Chronicles India, Assassin's Creed Chronicle Russia et Assassin's Creed Chronicle China.
Tu sais que t'aurais pu ne pas répéter la première portion.
Mais c'est comme ça qu'il s'appelle.
Oui, puis ça sort en 2016.
Ça vient tout
ensemble. Ça sort en 2016, janvier, février, et pour la version China, c'est en avril. Des petits jeux, 10$.
C'était pas avril dernier. Je pense qu'il y en a un des 3 qui était déjà sorti.
China, d'abord, qui serait sorti.
C'est avril dernier, on en a fait la critique sur notre site web.
OK.
Ha!
C'est Mel, d'ailleurs, qui a fait ça. C'est Mélanie Boutin-Chartier.
Represent Mel.
Donc, c'est pas avril prochain, my bad. C'est avril passé. Les 2 autres jeux vont sortir en janvier et février. La compagnie qui développe ça, c'est Climax Studio, qui est connue pour Castlevania Lords of Shadow sur PC, qui a reçu quand même des bonnes critiques, j'ai vérifié. C'est chouette parce que pour le jeu en Inde, ils vont s'inspirer en fait du style architecture très coloré de l'Inde. Et pour la Russie, ils vont s'inspirer de, ils disent, des period-specific posters. Donc, tu sais, les posters très communistes, très carrés, là, de la Russie.
Si je comprends bien, pour faire les jeux pour chaque pays, ils vont s'inspirer de chaque pays.
D'éléments, oui. Okay. Ouais,
chances qu'ils sont là. Je t'aime, Alexis.
Aïe, 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 c'est pas drôle.
Il y a Capitaine Charisma sur le chat de Twitch présentement qui dit que si vous voulez essayer cette franchise-là, China, l'épisode China est disponible à 2,50 sur le PlayStation Network présentement.
Bon. Pas cher, c'est un bon deal. Allez faire un tour, merci.
On peut soupçonner que l'épisode China s'est inspiré de choses de
pâté chinois.
Je peux-tu profiter du segway qui m'est offert ici pour plugger mon autre nouvelle?
Vas-y, mon vieux.
Ben, de vendredi 3h01 AM Eastern Time à dimanche 2h59 AM, Donc, toute la fin de semaine, il y a comme un grand débrouillage sur le PlayStation Plus. Donc, le multiplayer va être accessible gratuitement aux propriétaires de PlayStation 4.
Ça, c'est cool.
C'est une fonction qui est normalement réservée aux membres de PlayStation Plus. Mm-hmm. Mais en fin de semaine, ça va être free for all, all you can play, j'imagine. Si vous n'avez pas joué en ligne encore avec le PlayStation, puis que vous n'avez pas d'abonnement, c'est une façon de vous donner le nanan, puis éventuellement de vous le vendre.
C'est comme donner de la drogue dans une cour d'école. Voilà.
Ou du crack.
C'est ton sideline.
Non, j'ai arrêté, je ne le fais plus. On a fait le tour. Monsieur Tremblay, vous avez quelque chose à plugger avant qu'on se quitte?
Oui, tu veux dire un projet personnel?
Oui, si vous voulez. On peut parler de réseau web, si vous voulez, également.
Oui, exact. En fait, je veux en parler rapidement parce que le projet RZO Web est dans une deuxième version maintenant. La première édition n'avait pas vraiment fonctionné dans sa forme, mais la nouvelle version a été reprise par Jean-François Cromp, lui tout seul, qui est podcasteur lui-même. Et puis, pour lui, c'est important pour mettre le podcast, le média en avant, de vraiment offrir une plateforme pour que les gens qui ne connaissent pas ça puissent consommer ça beaucoup plus facilement. C'est ouvert à tous, c'est gratuit. Jean-François n'a pas l'intention du tout de monétiser cette plateforme-là sur le dos des podcasteurs, si jamais c'est quelque chose que vous vous posez la question. Pour lui, qu'est-ce qui est important, c'est vraiment de mettre le médium à l'avant et d'ouvrir ça à le plus de monde possible. Le site est présentement en version alpha, mais très bientôt, ça va être disponible aussi avec des podcasts vidéo. Ça va être possible de se créer un compte, de créer sa propre sélection de podcasts personnels aussi. Et tout ça va être rassemblé sur rzoweb.com où est-ce que vous allez pouvoir consulter votre contenu très facilement.
Donc, c'est un espèce d'agrégateur de podcasts, c'est ça?
Exact. C'est un agrégateur de podcasts volontaire. Donc, les gens peuvent soumettre ça eux-mêmes s'ils sont intéressés à être affichés là, tout simplement. Et puis, c'est gratuit. Voilà.
Voilà, donc ça vous tente d'aller faire un tour. On a juste à contacter, j'imagine, M. Cron qui va nous dire comment procéder, c'est ça? Ou les instructions sont?
Il y a un lien d'inscription directement sur le site web. Je crois que c'est rzoweb.com/inscription. Rapidement comme ça, je ne trouve pas le lien sur le site web. C'est probablement dans la version info. Non, la version info, on dit où est-ce qu'on est, il y a la mission, les nouvelles.
Si c'est en alpha, c'est peut-être pas prêt à lancer aussi. Ouais. Là, je pense qu'il l'a fait en bêta privé, peut-être, pour certains podcasts.
Je sais pas.
Non. C'était vraiment, il y avait vraiment affiché le publiquement le lien d'inscription pour tous. Puis Jean-François, d'ailleurs, Jean-François Cromb invitait les gens, même si vous aviez déjà un podcast et qu'il est essentiellement à l'arrêt présentement. Donc, même quelque chose pour reconsulter qui pourrait être intéressant si vous voulez le mettre de l'avant, même si vous n'en faisiez plus maintenant, c'est possible. Donc, même quelqu'un comme toi, Laurent, qui a fait des centaines de podcasts tout seul de son côté, en rencontrant des gens et en ayant des discussions super intéressantes, j'en ai écouté plusieurs moi-même, tu pourrais soumettre ce podcast-là à RZO, puis il serait affiché là pour que les gens puissent le consulter en archive.
Bonne affaire. Merci beaucoup, monsieur, de cette précision. Et pour finir, Jean-François Tremblay va faire un 24 heures pour Opération Soleil, vendredi 11 novembre prochain. C'est qui ça, monsieur Tremblay?
Monsieur Tremblay, c'est un streamer sur Twitch. Ça fait à peu près un an qu'il a commencé. Depuis 6 mois maintenant, il est partenaire Twitch, exactement comme toi avec Radio Talbot. Lui, il veut faire deux choses. Il trouve que la communauté Twitch est quand même embryonnaire du côté du Québec. Il dit qu'il y a beaucoup de gens, mais il n'y a personne qui réussit vraiment à se démarquer. Il dit, moi, je veux vraiment essayer d'aider les gens à se démarquer là-dedans. Puis il dit, il y a aussi, j'ai des bonnes causes qui me tiennent à cœur. Donc, vendredi prochain, dès 22h, il va faire un 24 heures sur Twitch et tous les dons qu'il va ramasser à ce moment-là vont être pour Opération Enfant Soleil. Donc, il m'avait demandé simplement de le plugger directement dans le show. Donc, vous pouvez aller voir sa chaîne qui est twitch.tv/bast_50. C'est BAST_50. Et puis, lui, il va être en ligne vendredi de 22h pour un 24h.
Merci beaucoup, M. Tremblay, de plugger cet autre M. Tremblay. On va lui donner un coup de main, si on peut l'aider.
On supporte.
Les boys, monsieur, vous avez quelque chose à plugger, vous?
Non, particulièrement. Je suis dû pour... On est dû pour du nouveau contenu. Le jeu, c'est sérieux.
Ouais, qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Prenez une pause. C'est toujours parti, ça trotte.
Travail! Mais là, il y a mon collègue Giz qui a publié la première vidéo de Resellers.
Okay.
Ça, c'est sur sa chaîne personnelle.
C'est quoi, ce Resellers?
C'est
très drôle.
c'est en fait une série qui se moque un peu des émissions comme Porn Stars, okay, où les gens, genre, t'as des personnes qui vont bider sur du matériel pour essayer de revendre ça plus cher dans, okay, dans des endroits, puis ils essayent de trouver des gamins. Ben là, il y a Giz et notre autre collègue de la chaîne, Jérôme, qui se font passer pour des revendeurs. Donc, ils achètent des jeux rétro, qui essayent de vendre ça plus cher, ou ils vont peinturer des amiibo en or pour que ça soit plus rare. Tout ça, c'est de la frime. On s'entend, c'est de la comédie. Oh, ils sont pas comme ça, pour vrai.
Ben non.
Puis c'est en anglais, c'est sur la chaîne gizdp.com. Allez voir ça.
Merci beaucoup. Belle blague.
On va avoir une version sous-titrée en français bientôt.
Je suis tombé dessus. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Ouais. Jérôme, en fait, qui fait vraiment le style de gars très, très en avant, là, qui il connaît son affaire et tout. Là,
il connaît sa shit, comme
ça. Oui. Puis il y a vraiment le langage. Giz fait
Giz
une espèce de...
Pas. C'est un genre de Silent Bob. Giz, son anglais est très moyen. Fait qu'ils ont préféré genre faire en sorte qu'il parle jamais. Il fait plus le faire valoir assistant, ouais, qui...
En fait, il fait si vous connaissez, en fait, le couple de magiciens Penn and Teller, fait Teller, donc il dit rien.
Ou Sideshow Bob.
Puis,
pas Sideshow Bob.
Silent Bob.
Ouais. Sideshow Bob, c'est
donc c'est toujours les expressions que le kit, puis il fait un truc avec le bazooka de la
Super
Nintendo.
Le premier, le Super Scope, puis ça, c'est vrai, il va montrer exactement comment le faire, mais en fait, ce qui était gossant du Super Scope, c'était toujours de changer les batteries. Ben là, il va montrer les instructions pour mettre une batterie rechargeable avec un câble USB, fait que tu vas pouvoir recharger ton Super Scope et LED, tout ça.
C'est intéressant ce qu'il fait, mais moi, je l'aurais, dans le cadre de l'émission, je l'aurais porté à l'extrême, puis j'aurais rempli le bazooka de batterie.
Ouais, OK, toi, tu parles, là.
C'est facile à dire, ça, Colin, un tournage.
Puis toi, tu parles, là, on entend toujours ton gain.
Mon gain,
Qu'est-ce que c'est avec ton gain, là?
J'ai pas de monde.
Ben, t'as pas de monde, bon.
Mais non, je dépense mon argent sur des t-shirts LED.
Bon, avant de se faire poursuivre par rapport pour ceux qui portent ça, as-tu quelque chose à plugger?
Ben, le podcast La Pomme, là, où est-ce que je parle de trucs à Apple chaque lundi soir à 20h, diffusé sur les internets. Vous pouvez écouter ça. Et c'est pas mal là que je suis en ce moment.
Merci beaucoup, cher ami.
Ça fait plaisir.
Continuez de faire de belles pubs pour Apple comme ça. Je suis sûr qu'ils vont vous engager pour faire un moment donné des panneaux
publicitaires. Tellement pas.
Ah, mon Dieu. Hey, merci à vous tous et toutes ce soir d'avoir été là encore une fois. Et pardon, Tomino. Bon, pardon. On va se retrouver très bientôt, c'est-à-dire demain, pour une autre édition de Radio Talbot. Demain, c'est l'émission Marina. Fait qu'on se retrouve la prochaine fois. Salut tout le monde.
Radio Talbot vous a été présenté par les Brasseurs Illimités et la bière Simple Malte. Mugodio, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique depuis 1998. Mugodio.com. EB Games, le plus grand détaillant de jeux au Canada. Et par CIPC, votre référence pour votre solution informatique.